tu dis à Margot d'il y a 3 ans, tu peux faire 100 000 euros par mois avec ton business et tout, moi qui n'ai pas de business, qui n'ai rien fait, bah genre jamais de la vie je pourrais y croire, tu vois, ouais. Je suis en mode mais n'importe quoi.
Tous les gens qui réalisent des choses un peu exceptionnelles, là dans ton cas, exploser en un an, c'est parce qu'il y a de l'obsession, quoi.
Toutes les problématiques mindset se résolvent de la même manière, c'est passe à l'action, fais des choses, tu vois. Je pense beaucoup, je réfléchis à plein de trucs et j'ai tendance à facilement... stressé, angoissé, être pas hyper bien et tout, et mal gérer ça. Enfin, je gérais très très mal avant. C'est-à-dire qu'encore une fois, je suis obsédée par là où je veux aller, et en fait, il y a rien qui m'arrête pour y arriver. Et j'ai aucun mal à dire qu'il y a plein de trucs qui me stressent, plein de trucs qui me font peur, ouais. Comme tout le monde.
Le génie prend racine dans l'obsession.
Ça peut être hyper mal compris. Je sais que quand je l'ai abordé ça sur LinkedIn il y a pas très longtemps, et je me suis fait un peu tailler sur LinkedIn, je me fais pas mal tailler. Et le fait de pouvoir, à travers mon business, permettre justement littéralement à des femmes de devenir indépendantes et de devenir libres et de vivre la vie qu'elles veulent vivre et de laisser personne leur dicter leur vie, etc., c'est un accomplissement de ouf pour moi. Si t'enlèves l'aspect argent, etc., rien que ça, genre je me couche le soir, je suis fière de ça, je suis contente de ça.
Quel est un peu ton secret pour tenir cette régularité, en fait?
Je bossais, mais du matin au soir, la nuit, le lundi, du lundi au dimanche, les vacances. Enfin, j'avais zéro vacances. Moi qui suis très fêtarde, quand même, j'aime bien voir mes potes sortir et tout. Je m'étais coupée de tout, de ma famille, j'étais dans ma bulle. Et bon, j'ai un peu poussé à un moment un peu trop loin.
Un des secrets de ton succès, c'est aussi ça, c'est que tu dis, voilà, ça me fait peur.
Ah ouais.
Mais bon... C'est le faire
ça.
Quand même.
C'est ça. J'ai fait ma première face cam, j'avais trop peur de le faire. J'ai fait mon premier coaching, j'avais trop peur, mais je l'ai fait direct. T'as des gens qui se demandent 6 mois s'ils sont assez légitimes, assez compétents pour faire un truc. Moi, j'étais clairement pas légitime enfin, au début, je ne l'étais pas, tu vois, mais je l'ai fait direct. Mon premier live, j'ai eu peur, mais je l'ai fait direct. Et en fait, dès qu'il y a eu un truc challengeant, je l'ai directement fait sans repousser dans un mois, dans 2 mois. Du coup, forcément, sur une année, ça va vite, tu vois.
Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur toi ? Hello à tous, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Margot Cunego. Alors Margot Cunego, ça fait quelques années en fait qu'on se connaît. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle s'est lancée en janvier 2021, si je ne me trompe pas. Et puis, on avait échangé un petit peu à ce moment-là. Et un an s'est passé et au bout d'un an, j'ai remarqué qu'elle avait généré quelque chose comme 300 000 euros de chiffre d'affaires. Elle est peut-être passée de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en un an. Et là, je me suis dit, waouh, ça, c'est de l'hypercroissance qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup, je suis trop heureux de pouvoir discuter, d'avoir le temps comme ça de discuter avec elle pendant au moins une heure, parce qu'il y a plein de choses que j'avais envie de lui poser, plein de questions que j'avais envie de lui poser. Et le truc qui est fou, en fait, c'est que t'as continué, t'as tenu cette croissance-là. Et en fait, à 24 ans, si je me trompe
ouais,
pas, t'as un chiffre d'affaires peut-être qui est autour de 5 chiffres, on va dire, par mois, ce qui est fou. Mm. Et ouais, comme j'ai été un peu témoin de cette croissance-là, je me suis dit, bon, on va prendre
cool.
Le temps,
oui.
Et ça va être super cool. Donc, bienvenue, Margot.
Eh ben, merci à toi, je suis très contente d'être ici. Merci pour l'invitation.
Bah,
présentation parfaite, tout juste.
C'est juste,
tout
bon,
juste.
C'est bon.
Nickel.
Évidemment, on va parler de Boost Ton Biz, qui est ton programme. T'accompagne, oui, parce que je n'ai pas expliqué ce que tu faisais vraiment.
Ouais.
Et ce que tu fais, en fait, c'est que t'accompagnes des femmes entrepreneurs.
Ouais, ouais.
Tu les aides à développer leur business.
C'est ça.
T'accompagnes plus de 320, au moment où on enregistre
oui,
ce podcast,
voilà,
en tout cas,
tout à
plus de 320 femmes entrepreneurs. Ce qui est juste incroyable. Et la structure de ton business a pas mal évolué.
Ouais, grave.
Et surtout, en termes de... Ouais, tu proposes un programme qui est evergreen aujourd'hui, alors qu'avant, c'était pas le cas. Bref, il y a plein de choses, on va en parler, évidemment. Mais le fait d'accompagner les femmes entrepreneurs, je trouve que c'est un sujet... J'ai interviewé aussi Aline Bartoli.
Oui.
On a parlé de ce sujet-là.
Ouais.
Et je trouve ça incroyable, ce travail-là que vous faites dans ce
trop,
petit groupe de,
cool,
de
ouais.
Coach business. Et je trouve ça génial et on va en parler. J'avais envie de démarrer par quelque chose qui n'est pas tellement business
oui.
finalement.
Mm-hmm.
Y a un livre qui t'a un peu fasciné ces derniers temps, ces derniers mois, qui est Kilomètre Zéro
mm-hmm.
De Odakawa, je
ouais,
crois.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui t'a fasciné dans ce livre?
Bah, Alors, je pense que genre c'est aussi hein, le livre que j'ai lu à un bon moment, enfin à un moment tu sais, t'as des livres des fois tu les lis parfaitement à un moment où tu dois les lire, et moi c'est clairement ce qui s'est passé. Je lisais que des livres 100% business, 100% genre pour apprendre des choses, etc. Et j'ai eu une période en fin 2022 compliquée dans ma vie perso, ou à une rupture, etc. Et en fait, je suis tombée sur ce livre, c'est une pote qui me l'a conseillé en mode bah vas-y lis ça et tout, et en fait ça m'a retourné le crâne vraiment, parce qu'en fait c'est un livre un peu dev perso, un peu spirituel, mais genre raconté dans une histoire, genre un roman, tu sais, tu te mets à fond dedans, t'es à fond, et genre en fait c'est l'histoire d'une meuf qui part se retrouver avec elle-même, et elle a un guide spirituel, mais en fait par son histoire je me suis reconnue à fond dans le personnage principal, et du coup dans les enseignements que son guide lui donnait, et en fait, enfin, genre vraiment, ça faisait tellement écho à ma vie à ce moment-là et à ce que je vivais à ce moment-là, que genre j'ai vraiment pris tout ce qui ressortait de ce livre-là pour moi et pour ma situation personnelle, et il m'a fait faire un bond en avant en termes de mindset, en termes de façon de voir les choses, en termes même de compréhension de moi-même, de mes émotions, de ce que j'avais peut-être caché, refoulé, etc., de mon mode de fonctionnement. Enfin, c'est vraiment un guide pour apprendre à comprendre genre l'être humain. Enfin, je sais que je me suis retrouvée dedans, mais énormément de mes potes aussi. Et genre, c'est pas que pour moi. C'est vraiment n'importe qui peut s'y retrouver. Ça aborde des problèmes qu'on rencontre tous.
C'est un best-seller énorme.
Mais c'est ça. Mais moi, vraiment, je me suis dit, mais ce livre, tout le monde, c'est d'utilité publique. Les gens doivent le lire absolument, absolument.
Kilomètre zéro.
Mais vraiment, il est incroyable.
Est-ce qu'il y a une leçon qui t'a vraiment mis une claque énorme?
Ben, franchement, c'est une leçon que je connaissais déjà, mais la notion de responsabilité, encore une fois, et d'à quel point genre tout ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu entreprends, ce qui t'arrive, tu l'as provoqué et créé d'une manière ou d'une autre, et ou du moins même si ça a été créé, provoqué par des circonstances complètement extérieures à toi, ta réaction et ta manière de transformer ce qui t'est arrivé pour avancer, elle t'appartient à 100%. Et je le savais déjà, tu vois, mais dans les exemples donnés, ça m'a vraiment fait percuter ça d'une autre manière, tu vois.
Et souvent, c'est les conseils les plus simples.
Mais oui,
qui sont
les trucs
puissants.
Les plus bateaux, ouais. Vraiment, finalement, c'est les trucs les plus réels, quoi.
Ouais,
franchement,
ça
m'a trop.
Le fait
trop
de la perception, quoi. En fait, c'est ce que tu perçois des événements.
Mais c'est ça.
Qui détermine un peu ta réalité.
Mais carrément. Et ça, c'est hyper, ça peut être hyper mal compris. Je sais que je l'ai abordé ça sur LinkedIn, il y a pas très longtemps, et je me suis fait un peu tailler. Sur LinkedIn, je me fais pas mal tailler. Et genre là, j'avais abordé ça, j'avais pas mis beaucoup de forme, j'avais dit ce que je pensais dans ma tête. Mmh. Et en fait, les gens m'ont direct dit, ouais, mais je sais pas si t'es arrivé vraiment, une dinguerie quand t'étais plus jeune, ou si t'as eu des parents comme ça, ou si t'as eu un accident, et donc, c'est le truc, c'est que oui, tu maîtrises pas les événements extérieurs, ce qui t'arrive dans ta vie, les choses que les gens font. Par contre, genre personne d'autre que toi ne maîtrise la réaction que t'as et ce que tu fais après, tu vois. Donc ça, quoi qu'il arrive, ça s'applique à tout le monde, peu importe ce qui se passe, quoi.
En fait, on est un peu, je trouve, dans une société de la déresponsabilisation.
Mais à fond.
Genre comme si c'était jamais de notre fait,
mais
quoi.
Oui.
Et
mais
donc
oui.
Du coup là, de dire. C'est pour ça que j'imagine que tu t'es fait tailler pour ça.
Ah, mais oui.
De dire, en fait, t'as plus de contrôle sur ta vie que ce que tu pourrais croire. Alors oui, il peut t'arriver des drames, il y a des drames du quotidien, c'est le coup.
Bien sûr.
Tout le monde vit des moments durs dans sa vie. Mais t'as la responsabilité de ta vie, quoi.
Mais oui.
En fait, tu peux pas la déléguer, en fait, la responsabilité de ta vie.
C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a que les gens, ils ont, je sais pas si c'est en France ou si c'est en général, tu vois,
peut-être en général, je pense.
Ouais. Ils ont pas l'habitude qu'on leur dise ben c'est ta faute, t'as toujours ce truc de un peu victimisation, mais c'est pas juste, et puis on essaie de protéger un petit peu les gens et tout, et finalement tu perds cet aspect de ben en fait si tu veux kiffer ta vie le plus possible, ben en fait il y a que toi qui peux le décider, et malgré tout ce qui t'arrive, et oui, enfin il y a des gens qui vivent des drames plus graves que d'autres, mais bon, la vie elle est simple pour personne non plus, et genre on va tous vivre à des moments des trucs compliqués, après il y a que nous qui décidons de ce qu'on veut en faire, et quoi qu'il arrive, je sais qu'en ayant cette mentalité là je suis plus heureuse que quelqu'un qui ne l'a pas, tu vois. Ça, c'est une évidence, et ça se remarque, j'en suis persuadée, quoi.
Ouais, t'as trouvé en tout cas dans ce livre des leçons qui resteront, quoi.
Ah bah oui, clairement.
Et j'ai échangé avec un entrepreneur qui me disait qu'en fait le développement personnel, tout est dans le bouddhisme.
Ouais, bah oui.
Et finalement, c'est
ça.
Hein, la responsabilité, l'impermanence des choses,
c'est ça.
Le fait que
c'est
tout
ça.
Change tout le temps, et que bon, bah c'est comme ça, il faut s'adapter.
C'est ça. Ce livre, c'est basé sur le bouddhisme, en fait. Enfin, le guide spirituel dans ce livre, c'est ça. Donc c'est vraiment autour de ça. Et en vrai, les enseignements, tu les appliques dans ta vie, tu te sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix, quoi. Beaucoup moins stressée.
Kilomètre zéro.
Ouais. À lire.
Tu parlais tout à l'heure de LinkedIn.
Oui.
Alors. quand j'ai préparé ce podcast, ouais. Je me suis dit, bon, je vais aller regarder un petit peu tous les points de contact que tu peux avoir avec tes clients. Et il se trouve que tu crées énormément de contenu, ce qui est génial, ce que je trouve, ce qui est rare à vrai dire à ce niveau-là. Mais quand je dis énormément de contenu, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas eu affaire encore à ce contenu-là, il y a un podcast, il y a des vlogs, il y a des articles sur LinkedIn, il y a une omniprésence sur Instagram, ce qui est quand même assez génial. Et ce qui m'a frappé au-delà de la quantité de contenu, c'est finalement ta régularité. T'as toujours créé du contenu en grande quantité. Et même, j'ai l'impression que la courbe est exponentielle.
Ouais, de plus en plus, ouais. Là, t'as jamais créé autant.
Et comment tu fais? Quel est un peu ton secret pour tenir cette régularité, en fait?
Ouais. Bah alors déjà, je kiffe ça. Je pense que c'est hyper important. Genre, je crée du contenu de la manière dont j'aime le faire, tu vois. C'est-à-dire que ce que je préfère dans mon taf, dans ma vie, dans mon business, c'est créer du contenu. Donc forcément, ça aide. Quand t'es sur un truc que tu kiffes faire, c'est beaucoup plus simple d'être discipliné, tu vois, c'est beaucoup plus facile.
Ouais, bien sûr.
Donc il y a ça déjà qui joue beaucoup. Et en fait après vu que mon business il repose sur mon contenu, en fait le lien avec mon audience, le contenu que je crée, tout repose là-dessus, je fais pas de pub, enfin tout est sur mon contenu. Donc en fait, j'ai pas le choix que de créer du contenu. En fait, c'est même pas un truc que je me dis genre OK, il faut que je reste régulière, c'est une évidence. Alors c'est juste, je dois faire du contenu pour que mon business fonctionne, donc je fais du contenu. En général, là j'ai accéléré le rythme de contenu, mais sinon début de semaine je sais que je dois faire 3 posts LinkedIn, 3 posts Insta, 2 mails, un podcast, une vidéo YouTube par exemple.
Ce qui paraît normal pour toi, mais
ce qui est devenu normal, vraiment. Mais là maintenant je fais un post par jour sur Insta, un post par jour, ouais, sur LinkedIn, un mail tous les 2 jours, enfin je fais vraiment beaucoup de contenu.
Okay.
Et en fait, l'important c'est d'être organisé aussi, tu vois, c'est que je sais que je fais pas trop de batching, tu vois, j'ai un peu du mal avec le fait de faire beaucoup de contenu d'un coup.
Ouais.
Genre en fait, par exemple, il y a une journée où je vais préparer 2 jours de contenu, tu vois, je vais faire deux reels, 2 posts LinkedIn, un mail, et voilà, je fais ça tous les 2 jours et en fait, c'est intégré dans mon quotidien. Et ouais, une fois que tu le fais depuis 2 ans et demi, c'est plus une question de discipline ou de régularité, c'est ancré dans ma vie largement, quoi.
La question qu'on se pose peut-être quand on écoute ce que tu viens de dire, c'est comment tu fais pour trouver des sujets, des idées ce que tu vas raconter, ouais, dans ton contenu, ouais. Parce que l'organisation, tu l'as, tu as trouvé une organisation qui te, oui, qui te convient.
Oui.
Mais il faut raconter des choses intéressantes, il faut accrocher ton audience, il faut...
Ouais. Bah alors je pense que moi j'utilise grave mes expériences et ce que je vis même au quotidien. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, je vais avoir une discussion avec quelqu'un, je vais me dire ah tiens, genre ça pourrait faire un bon contenu. Mm-hmm. Je vais voir un TikTok, je vais me dire ah tiens, ça j'aimerais bien partager mon avis là-dessus. En fait, j'ai une note sur mon iPhone avec idée de contenu, et genre t'as toujours minimum 20 posts que j'ai pas encore fait, tu vois, et du coup, ouais, à force, dès que j'ai un truc où je me dis ah tiens, ça je pourrais le partager, ça intéresserait quelqu'un, ou genre je sais pas, par exemple je fais un live avec mes clientes, t'en as une qui me pose une question, bah je me dis ah tiens, genre ça je vais en faire un contenu, tu vois, et en fait j'ai plein d'idées qui me viennent comme ça par rapport vraiment à ce que je fais dans mes journées. J'ai une discussion avec un pote, j'écoute un podcast, je regarde un TikTok, je réfléchis énormément. Donc là je suis dans mon lit le soir, je te disais, je dors pas hyper bien, alors j'ai du mal à m'endormir, j'ai, ouais, plein de trucs qui me viennent.
Le soir tu penses,
le soir
à
je
des
pense
idées
à fond, ouais. Mais en fait ça, je me dis pas genre allez je cherche des idées, mais genre je pense tellement à plein de trucs que ben genre le soir je sors tout le temps mon téléphone pour écrire des idées de contenu.
Ouais, parce que ça en fait, cette petite habitude qui est vraiment pour toi habituel, quoi,
oui,
on va dire,
qu'il est devenu,
de noter,
ouais,
des idées,
ouais,
tous les jours,
tout
en
temps,
fait. Tout le temps, tu es en train
temps
de noter des idées. Il n'y a pas un jour quasiment,
non,
où tu notes pas quelque chose dans, ton petit, dans ta petite,
non,
liste sur ton téléphone.
Non, carrément.
Et ensuite,
pas,
tu vas piocher dans ces idées-là,
ouais,
et tu crées ton contenu autour
ça
de ça.
Genre, par exemple, tu vois, après ce podcast, je vais aller marcher, je vais me dire, ah putain, c'était cool quand on a parlé de ça, bah vas-y, tiens, je vais me le noter, je l'aborderai d'une autre manière. Ça, on a parlé aussi de ça, c'était cool. Et en fait, tu sais, le soir, genre, je revois tout le temps ma journée, je repense à plein de trucs, ça aide aussi. Enfin, ça a des côtés chiants de beaucoup penser, mais ça a des côtés cool aussi.
Ouais.
Du coup, je refais ma journée, je refais mes discussions, je refais un peu ce que j'ai vu, et du coup, j'ai tout le temps plein de trucs qui me vient. Et du coup, vraiment, l'habitude de, dès que j'ai une idée que je pourrais aborder, je la note direct, ça fait que j'ai toujours une base de 20-30 idées que j'ai pas encore abordées, quoi. Puis après, tu recycles.
T'as des créateurs de contenu qui t'ont inspiré, ou qui t'ont un peu mis le pied à l'étrier, ou t'as créé un peu ton petit système?
Ouais, non, en vrai, moi je fais, ouais, non, j'ai fait principalement toute seule. C'est que juste, en fait, je pense que c'est aussi naturel pour moi de partager, j'aime bien ça, tu vois. Donc, ouais, naturellement, je l'ai fait. Et moi, j'ai le truc inverse, justement, c'est que je suis très peu de gens attentivement. Tu vois, genre, je fais très peu de veille. Mmh. Je regarde très peu ce que font mes concurrents. Je sais même pas trop ce qu'ils font et tout. Et du coup, je suis grave dans ma bulle. Et ce qui fait que, bah, je m'inspire, enfin, genre, j'allais dire, je m'inspire toute seule. C'est pas prétentieusement, mais genre, en mode, j'ai mes idées. Je les tourne de la manière dont j'ai envie de les tourner. Et je suis pas forcément, influencée par mes concurrents, par ce qui se fait sur Instagram, ce qui se fait sur LinkedIn, ce qui, enfin, les règles un peu de contenu qu'on a.
En fait, tu consommes pas tellement de contenu d'autres entrepreneurs.
Non. Sur, tu vois, si je vais aimer par exemple les podcasts ou les trucs longs, les vidéos longues. Mais par contre, LinkedIn, Insta, qui sont les plateformes où je poste tous les jours, je regarde rien du tout de ce que font les
produits,
gens.
Tu consommes pas.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Wow. Et ouais, c'est comme ça, genre je suis pas biaisée. Oh, je le faisais avant, tu vois, mais en fait, je me disais, ah ben, elle a fait ça, ça a bien marché pour elle, bah vas-y, je vais essayer de reproduire et tout. Et en fait, là, maintenant, depuis que j'ai arrêté ça et que vraiment, je regarde pas les stories, je regarde pas les posts, je fais du meilleur contenu, quoi. Ça sort de ma tête.
Tu vois, c'est Leila Hormozi, la femme de Alex Hormozi, qui disait qu'en fait, on lui posait la question, comment vous faites pour faire, votre petit couple, là, comment vous faites pour créer un contenu si original, si impactant? Et en fait, elle disait exactement ce que t'as dit, toi. Okay. C'est-à-dire, je ne consomme pas de contenu. Que je réfléchis et je me dis ça pourrait être intéressant, voilà ce que j'ai vécu, et donc du coup ça crée quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps forcément, qui est un peu à part parce que axé sur une compréhension personnelle de sa propre vie, quoi.
C'est ça, c'est unique et ça part de toi, et du coup c'est ton contenu, les gens s'identifient à toi, tu crées des liens avec ton audience, enfin moi c'est exactement ce que je fais, et sans même y penser, c'est juste que je suis dans ma bulle et je partage comme j'ai envie de partager, quoi.
Trop intéressant.
Ouais, je pense que c'est pour ça que ça marche.
À noter, moins on consomme, plus on crée du contenu original.
Bah, c'est ça. Du contenu qui te ressemble, quoi. Ouais. Et puis au début, si t'as peur, enfin, au début, je consommais grave du contenu parce que j'étais pas à l'aise. Mais une fois que t'as fait des contenus que tu vois que ça prend un petit peu, bah, genre, essaie de plus en plus de produire ton contenu qui s'inspire pas des autres à 100%, quoi.
Tu vois, moi, je me dis que le contenu qui est un peu how to, finalement, on fait vite le tour.
Mais grave.
C'est toujours la même chose, grosso modo. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'aime bien les interviews, justement, parce que tu découvres des histoires, il y a quelque chose d'inspirant, et c'est moins, et pourtant, t'as des clés, je trouve qu'il y a plus de clés dans une interview d'une heure et demie que dans une heure et demie de masterclass sur un truc très précis.
Mais moi, je me forme uniquement avec des interviews, carrément, depuis que je me suis lancée, vraiment, hormis les formations, les coachings et tout, mais genre le contenu que je consomme qui m'aide vraiment, gratuit, c'est uniquement des interviews ou des biographies ou des gens qui ont des parcours inspirants et qui partagent des façons de voir le monde, des leçons et tout. J'apprends bien plus en écoutant des podcasts que des masterclass qui me disent comment est-ce que tu vas passer de temps à temps, comment est-ce que tu vas faire ça. C'est des conseils, tu vas sur Google, tu peux les trouver aussi. Enfin voilà, c'est pas...
En fait, l'expertise pure, elle est de moins en moins attractive.
Bah non, mais tout le monde l'a, tout en monde soi. L'a. Ouais. Genre, ce que tu sais faire, plein de gens savent le faire. Ce que je sais faire, plein de gens savent le faire. Ouais. Mais du coup, est-ce qui fait la différence maintenant, c'est ton personal branding et ton contenu à toi, quoi.
T'as vu ta vision singulière, en fait, sur un sujet que tout le monde a, sur un sujet ordinaire, quelque part. Mais t'as une vision unique.
C'est ça.
Et c'est ça que les gens recherchent, finalement. Et justement, on va revenir un peu sur le début, parce que... Si j'ai bien compris, tu t'es lancé plutôt autour d'Instagram, sur coach Instagram un peu.
Ouais,
t'étais un peu coach Insta.
J'étais un peu perdu, mais oui, voilà, c'est ça.
C'était un peu l'idée, quoi.
C'est ça.
Peut-être que c'est comme ça que tu te définissais, ou CM, peut-être.
Bah, alors, j'ai commencé CM, j'ai eu genre un contrat, ça m'a direct saoulé.
Ouais.
Donc après, je me suis dit, ce que je faisais pour les gens, je vais leur apprendre par visio plutôt que le faire pour eux, quoi.
Okay.
Donc oui, c'était un peu coach Insta, en gros, à l'époque.
À quel moment t'as switché vers du coaching plus business où les gens te demandaient peut-être pour développer leur offre ou la marketing?
C'est ça. En fait, c'est venu plutôt de la demande que j'ai eue de mes clientes que moi qui me suis dit, OK, maintenant je me mets sur le business, parce qu'en fait, moi, du coup, quand je faisais du coaching purement Insta, ça a bien décollé direct.
Ouais.
Et du coup, vu que mon business à moi a bien décollé, forcément, les gens qui venaient me voir, c'était aussi en mode, comment tu fais pour vendre? Comment tu fais pour créer une offre comme ça? Comment tu fixes un tarif? Et mes clientes me posaient de plus en plus de questions comme ça.
Ouais.
C'est là que je me suis dit, en fait, ça fait plus sens pour moi. Puis même, je suis beaucoup plus intéressée par le côté business que le côté Instagram. Enfin, tu vois, en soi, Instagram, pour moi, c'est pas la plateforme qui me fait kiffer. C'est vraiment le marketing, la psychologie, le business derrière qui m'intéresse vraiment plutôt que apprendre l'algorithme Instagram. Ça m'intéresse pas du tout. Il y en a qui le font très bien, mais moi, ça m'intéresse pas du tout.
Et du coup, t'as eu ce côté, j'aide un peu plus, j'élargis un peu mon champ de compétences, je commence à aider un peu plus les entrepreneurs à développer leur business. Et rapidement, tu t'es mise sur dans une dynamique un peu plus de groupe. Ouais. Si j'ai bien compris, moins individuel.
C'est ça. Bah en fait, j'avais beaucoup de clientes. Il y a eu une période où j'avais genre 12 one-one par semaine. Ouais. Donc ça me faisait 12 heures de visio. Enfin, 12 heures, ça dépassait plus souvent les 1 heure. Donc en fait, je passais ma vie en visio. Et moi, être en visio avec quelqu'un, j'aime bien, mais c'est pas ce qui va me procurer le plus d'énergie. Tu vois, être en one-one avec quelqu'un. Et du coup, ça me... Enfin, j'adore le faire et je le fais encore avec mes one-one. J'ai quelques filles en one-one, mais tu vois, on se parle beaucoup plus sur WhatsApp plutôt que des visio-visio. Ouais. Et en fait, le truc de 1 heure par semaine à la même heure, machin, ça me bouffait mon énergie. Et du coup, et puis surtout, bah, je pouvais plus développer mon chiffre d'affaires. J'avais atteint largement ce que je pouvais prendre dans une semaine. Et du coup, bah, je me suis dit, enfin, c'était purement financier pourquoi j'ai lancé un groupe de base. C'était en mode, bah, je peux plus gagner plus d'argent, trouver plus de clients. Donc, bah, je vais regrouper les gens dans un groupe. En fait, j'avais pas idée que j'allais préférer largement le groupe que le one-one. Au début, je me suis juste dit, ça va m'augmenter mon chiffre d'affaires.
Ouais.
Et en fait, bah, finalement, j'ai beaucoup plus kiffé ça. Donc, ensuite, je suis restée beaucoup plus sur le modèle là, quoi.
Et Pousse ton bise. Ouais. Qui est aujourd'hui, en fait, ta seule offre. Comment t'es arrivé à cette offre-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ça répondait à quel besoin?
Ouais. Bah ouais, en fait, c'était de la même manière que quand je suis passée du one-one au groupe, je me suis dit, premièrement, bah, les coachings de groupe, c'est bien, mais tu sais, j'en avais déjà fait 3, 4, voire même 5 que j'avais lancé. Et, bah, pareil, tu peux pas prendre beaucoup de personnes, t'es quand même limité, bah, tu peux pas prendre 10 groupes en même temps, t'as un groupe sur 3 mois, après t'as t'en refait un, enfin, j'ai enchaîné les groupes comme ça. Et je me suis dit, j'avais le même problème, genre, je pouvais pas avoir plus de clients, je pouvais pas, accompagner plus de gens, enfin toucher plus de personnes, gagner plus d'argent, etc. Du coup, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un système où vraiment je peux avoir 10 personnes comme je peux en avoir 1000 et entre guillemets, ça peut fonctionner de la même manière, tu vois.
Scalable, quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, bah c'est de là que j'ai pensé tout le programme Boost on Biz. J'ai fait une première version de test en mode lancement où j'ai pris un petit groupe de 12, je crois qu'on était. Et en fait, de là, je me suis dit, bon, bah, ok, après, j'ai construit mon programme, genre, avec les vidéos, l'aspect coaching, que j'ai bien amélioré entre temps, on pourra en discuter, mais là, maintenant, on a toute une équipe qui accompagne les clientes et tout. Mais de base, c'était, que ma présence, elle soit plus, obligatoire, entre guillemets, et que je puisse, avoir, genre, 1000 clientes dans un an et que ça tourne de la même manière, quoi.
Ouais.
Et que le suivi perde pas, enfin, que la qualité baisse pas, c'est hyper important pour moi et c'est mon plus gros challenge, en vrai, en ce moment.
Parce que là, voilà. Aujourd'hui, c'est 320 à peu près à la louche.
26, là.
26, au moment où on enregistre ce podcast. 326 clientes.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez toi?
Principalement, je dirais, un peu mon énergie, je dirais. Enfin, l'énergie boostombe. Ouais. C'est-à-dire que moi, les gens viennent me chercher et me suivent aujourd'hui parce que j'ai une énergie qui est un peu communicative. Je passe beaucoup à l'action. Du coup, je donne l'exemple à ce niveau-là. Du coup, les gens sont motivés, etc. C'est principalement ce que les gens viennent chercher chez moi. Et du coup, j'ai réussi à insuffler un peu cette énergie dans le programme Boostombe Biz. J'ai recruté des personnes qui sont comme ça aussi. C'est vraiment une énergie qui est... Enfin, en fait, tu viens dans Boostombe Biz parce que t'as envie d'être motivé, de passer à l'action, d'être entouré, d'être reboosté, d'être porté par l'énergie commune, etc. Et du coup, c'est principalement ça qu'elles viennent chercher. Bon, après, évidemment, il y a les compétences, enfin le contenu qu'on crée, l'accompagnement, etc. Mais le truc, je pense, qu'elles viennent chercher, c'est vraiment être reboosté et être porté par une énergie au quotidien, quoi. Parce que c'est souvent ce qui manque aux gens.
Ouais, c'est souvent le côté voilà, chaque jour.
C'est
ça. Faut avancer.
C'est ça.
Quand t'es solopreneur.
Quand t'es solo, c'est chaud. Hein.
C'est dur.
C'est chaud.
En fait, du coup, ce que je disais tout à l'heure, en introduisant un petit peu ton aventure, c'est que t'as vraiment connu une croissance énorme en l'espace de, pas pour une solopreneur, c'est énorme en réalité, en l'espace d'1 an.
Ouais.
Et je me souviens bien quand c'était appelé à ce moment-là et je t'avais dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait en 1 an? Du coup, publiquement, je vais te reposer la question.
Oui.
Tu passes de zéro quasiment à 300 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année 2021, je crois.
Ouais, c'est 2021.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais en vrai, c'est hyper... évidemment, jamais je n'aurais imaginé... je pense que, genre, en vrai, il y a eu une partie de chance. Enfin, je vais pas... je pense que j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait les bons choix, je suis passée à l'action à fond et tout. Après, je pense que je suis aussi arrivée au bon endroit au bon moment. J'ai eu la chance ce qui est une chance de trouver directement ce que j'aimais faire, tu vois. Genre en soi, il y a plein de gens qui lancent des business et qui kiffent pas ce qu'ils font, qui sont pas exactement au bon endroit, qui pensent l'être et finalement non. En fait, moi, c'est vrai que je me suis lancée dans la création de contenu et directement c'était ça que j'aimais et ça qui me faisait kiffer. Donc forcément, ça a aidé aussi.
Et où t'étais performante.
Mais oui, c'est ça, c'est ça. Genre c'est vraiment, j'ai trouvé directement le truc dans lequel j'étais naturellement douée entre guillemets, tu vois, que j'aimais vraiment faire. Et du coup, forcément, ça a eu un impact. Après. De ce que moi, enfin, comment est-ce que moi j'ai agi pour en arriver là, c'est vraiment le passage à l'action en vrai. Genre vraiment, c'est que à l'instant même où j'ai commencé à être, enfin, à me lancer, je me suis pas arrêtée. Genre vraiment, et c'est déjà en termes de charge de travail. Enfin, je bossais mais du matin au soir, la nuit, le lundi, du lundi au dimanche, les vacances. Enfin, j'avais zéro vacances. Moi qui suis très fêtarde quand même, j'aime bien avoir mes potes sortir et tout. Je m'étais coupée de tout, de ma famille, j'étais dans ma bulle. Et bon, j'ai un peu poussé à un moment un peu trop loin, donc j'ai rééquilibré après. Mais déjà, il y a eu énormément de travail. J'ai beaucoup investi aussi, ce qu'on me disait, j'ai beaucoup investi sur moi. Et je suis passée à l'action. Et en fait, c'est, enfin, tu vois, t'as passé à l'action et faire des trucs assez simples. Enfin, tu sais, de faire, voilà, passer à l'action et t'as vraiment faire des choses limite tous les jours qui te mettent dans un inconfort de ouf, mais que tu fais quand même. Et ça qui m'a fait progresser, c'est que, enfin, j'ai fait ma première face cam, j'avais trop peur de le faire, j'ai fait mon premier coaching, j'avais trop peur, mais je l'ai fait direct. T'as des gens qui se demandent 6 mois s'ils sont assez légitimes, assez compétents pour faire un truc. Moi, j'étais clairement pas légitime enfin, au début, je l'étais pas, tu vois, mais je l'ai fait direct. Mon premier live, j'ai eu peur, mais je l'ai fait direct. Et en fait, dès qu'il y a eu un truc challengeant, je l'ai directement fait sans repousser à dans un mois, dans 2 mois. Du coup, forcément, bah, sur une année, ça va vite, tu vois, parce que, et ça, c'est un truc que j'ai naturellement aussi,
ouais,
tu vois.
J'ai demandé comment t'expliques ça? Parce que c'est un peu ce que, il y a un mec qui s'appelle Steven Pressfield, qui a écrit un livre qui s'appelle The Art of War, The War of Art, enfin, je sais plus, bref, ouais. Steven Pressfield. Et en fait, lui, il parle de résistance. Il appelle ça la résistance. Mm-hmm. C'est-à-dire que t'as envie de faire quelque chose, mais il y a toujours cette petite voix qui te dit non quand même, ou est-ce que je suis assez fort pour ça, ou est-ce que ça va le faire, ou je sais pas comment faire. Et toi, j'ai l'impression que cette notion de résistance, tu l'as à un niveau extrêmement bas. C'est-à-dire que tu te dis ça me fait peur, mais j'y vais.
C'est ça.
Et surtout, tu t'arrêtes pas.
C'est ça.
Tu t'es pas arrêté en
non.
un an.
Non, ouais, c'est ça. C'est
enfin,
que...
jusqu'à maintenant.
Ouais,
d'ailleurs.
Ouais, ouais. Non, clairement. Mais donc déjà, ouais, pour le truc de, en fait, je sais que j'ai moins ces voix dans la tête. Enfin, en fait, tu vois, j'ai peur, mais je me dis, genre, j'ai plus peur de rien faire et de regretter que de faire et de me foirer, tu vois.
Ouais.
Et souvent, les gens qui passent pas à l'action, c'est parce qu'ils ont, genre, en gros, ils ont peur de se foirer, tu vois, ou peur de ce que les gens vont dire et tout. Et en fait, genre, moi, je me dis toujours, il y a pas, enfin, quoi qu'il arrive, il y aura pas mort d'homme. Genre, même si je me foire, même si, là, j'ai fait ma première conférence en présentiel, là, un mois, un truc comme ça. J'avais hyper peur. Genre, vraiment, pour le coup, le présentiel, moi, c'est un truc qui m'a toujours traumatisé, à l'école et tout. C'est vraiment, parler devant des gens, c'est pas du tout un truc simple pour moi. J'avais refusé plusieurs fois d'aller faire des conférences et tout. Et là, c'était, bah, Yacine Kaïs, je sais pas si tu vois, ouais.
De CM,
C'est ça, devenir CM, faire la formation.
Devenir CM,
ouais. Et il m'a dit, vas-y, viens, interviens et tout. Et j'ai eu trop peur. Mais en fait, je me suis dit encore une fois, bah, est-ce que je préfère me dire, bah, j'ai peur, donc j'y vais pas, donc je regrette. Après, je me dis, putain, j'aurais dû le faire. Et du coup, je repousse ma peur, quoi qu'il arrive. Si je veux faire des conférences, il y a bien un moment où je vais devoir le faire la première et où j'aurai peur de faire la première. Et du coup, je me dis, bah, autant faire ce qui te fait peur maintenant. Au pire des cas, je foire ma conférence, bon ben voilà, j'aurai un peu la honte quelques jours et puis ça va passer. Mais dans le meilleur des cas, bah je serais passée à l'action, je l'aurais fait. Et là maintenant, bah c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai trop kiffé, j'ai envie d'en refaire et ça m'ouvre une nouvelle porte. Et bah j'aurais pu passer 6 mois à me dire est-ce que je suis prête pour faire des conférences, mais du coup bah j'aurais, en fait tu décales le process à chaque fois quoi.
Ouais.
Et du coup c'est vraiment, et moi ce que je dis à mes clientes, parce que pour le coup mes clientes elles sont pas, enfin c'est un trait de ma personnalité qui est pas donné à tout le monde, tout comme on a chacun nos forces, ouais. Tu vois, c'est que c'est grave,
c'est ton avantage naturel,
ouais, c'est ça, et en fait. C'est cool, mais tu vois mes clientes je leur dis tout le temps, quand t'as peur de faire quelque chose, prends le réflexe de te demander c'est quoi que tu risques, genre le pire scénario qui pourrait t'arriver si jamais tu fais un truc et que ça foire. Genre vraiment la pire chose qui puisse t'arriver. En fait, tu te rends compte que peu importe ce dont t'as peur, le pire qui puisse t'arriver, il y a jamais mort d'homme. Tu vois, enfin là, on met pas nos vies en jeu,
oui,
on met pas, on est entrepreneur. C'est ça. Et finalement, notre pire situation à nous serait de devoir retrouver un travail en tant que salarié dans le pire des cas. Tu vois. Et en vrai, bah quand tu rationalises même ça, si tu dois retrouver pendant 6 mois un taf salarié pour repartir parce que t'as eu un échec business, c'est grave, ok. Tu vas pas en mourir, tu seras encore plus fort, ton storytelling il sera encore plus ouf une fois que tu seras reparti. Donc en vrai, même le pire du pire du pire, il est pas si grave que ça. Donc en fait, t'empêches pas de faire des trucs, alors que le pire que tu risques, ben c'est pas, y a pas mort d'homme quoi.
Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est que non seulement tu passes à l'action, mais tu continues. En fait, ouais. après de passer à l'action, là, par exemple, t'as fait ta première conférence. Oui. J'imagine que t'es déjà en train de te dire, la prochaine, c'est quand?
Qui m'invite dans sa conférence?
C'est ça. Et en fait, ça, c'est aussi, au-delà de la première action, du premier acte, de se dire, OK, j'y vais. C'est aussi le fait de continuer, de rester consciemment dans ce mindset-là. Est-ce qu'au quotidien, tu te répètes quelque chose ou t'as des routines qui te permettent de rester dans le côté offensif, on va dire, tu vois, et pas de défensif tous les jours.
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, premièrement, tu développes un peu une sorte de limite d'addiction à ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, genre, je développe une addiction au fait d'avoir fait un truc qui me faisait peur et que ce soit bien passé ou même pas, mais genre d'avoir fait et de me coucher le soir en me disant, OK, ça, j'aurais été incapable de le faire il y a 6 mois, maintenant je l'ai fait, genre, ça y est, j'ai passé à un truc. Et en fait, je vois vraiment le passage à l'action en mode limite, c'est un peu un jeu vidéo, genre t'es là, tu coches des, enfin tu sais, tu t'augmentes des niveaux dès que tu fais un truc. En fait, ça a un côté addictif. Donc déjà, moi maintenant, plus je le fais, en fait, plus tu passes à l'action, plus t'as envie de passer à l'action, plus t'as envie de faire encore des trucs plus ouf, parce que bah t'as envie de te challenger encore plus, t'as envie que la sensation que t'as après elle soit encore plus intense. Du coup, il y a d'abord ça, et d'un autre côté, je pense que t'as aussi le côté avoir une vision, avoir un objectif et savoir exactement où tu veux aller, pourquoi tu veux y aller. Et une fois que tu sais ça, en fait, t'as limite pas d'autre choix que de passer à l'action, tu vois. Genre moi je sais où je vais amener Boost on Biz, je sais la vie que je vais avoir plus tard, je sais le niveau que je vais avoir dans mon business en termes de visibilité, de notoriété, etc. Et du coup, en ayant ces objectifs là et ça, pour le coup, moi j'ai un truc, c'est que je suis obsédée par mes objectifs. Ça, c'est encore une fois, ça a un côté bien, ça a un côté moins bien, mais quand je vois un truc, je peux y penser vraiment matin, midi et soir, je suis à fond, genre vraiment je suis obsédée par ce que je veux atteindre. Et du coup, quand t'as une vision, tu sais pourquoi tu le fais aussi, que c'est un truc qui te tient vraiment à cœur, bah en fait, toutes les décisions que tu prends t'amènent naturellement vers ça, tu vois. Quand tu vois tous les jours là où tu dois aller, bah en fait, les choix que tu fais dans tes journées sont orientés pour atteindre cet objectif-là, quoi.
Ouais. Je sais plus qui disait ça, mais c'est le génie prend racine dans l'obsession. Un truc comme ça. Et je pense que tous les gens qui réalisent des choses un peu exceptionnelles, là dans ton cas, exploser en un an, c'est parce qu'il y a de l'obsession, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis obsédée vraiment par plein de trucs. Enfin, et ça a des côtés ultra négatifs, hein. Mais comme tout, genre, t'as toujours le côté positif, le côté négatif. Moi, pour le coup, mon obsession, pareil, j'ai une obsession pour la satisfaction cliente. J'ai une obsession pour que mes clientes soient heureuses, soient contentes. J'ai une obsession de toujours m'améliorer, toujours faire mieux. Et j'ai une obsession d'atteindre mes objectifs. Genre vraiment, enfin, là, j'avais le truc de 100 000 euros par mois, tu vois. Mais genre, ça fait 6 mois que c'est dans ma tête, tu vois. Je fais des choses pour atteindre ça. J'y ai failli être en juin, là. J'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Mais vas-y.
C'est incroyable. C'est des chiffres qu'on a tellement pas l'habitude d'entendre. Et tu vois, tu parlais de vision. Je pense qu'aussi, ce qui manque beaucoup à beaucoup d'entrepreneurs, et on est tous un peu passés par là, c'est quand on sait pas trop où on va, en fait. Oui. Et qu'on sait pas trop pourquoi on se lève le matin. Et qu'on a du mal à développer cette vision. Et toi, j'ai l'impression que t'as une certaine clarté, quand même,
ouais,
dans
grave,
cette vision.
Grave.
Comment tu l'as développée, cette vision? Alors déjà, quelle est ta vision actuellement? Ouais. Bon, on enregistre ce podcast, ça m'intéresse.
Bah, ma vision avec Boost on Biz, c'est clairement que ce soit le programme le plus connu, le plus reconnu en France et qu'il aide le plus de femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Genre vraiment, et de l'étendre à vraiment n'importe quelle meuf qui kiffe pas trop sa life, qui kiffe pas trop son travail, qui est étudiante ou qui a envie de devenir libre et de gagner son propre argent et de travailler depuis chez elle, etc. Bah qu'elle passe par mon programme pour y arriver. J'ai envie juste d'accompagner le plus de femmes en France, quoi. Et du coup, bah en fait, mon objectif c'est ça. Du coup, j'ai envie d'être l'influenceuse business. Je sais pas trop comment dire ça, mais tu vois la figure. Je sais pas comment dire.
Oui, la figure. La leader d'opinion sur ce sujet-là.
Voilà, d'être la plus suivie, la plus
figure d'autorité.
Ouais, c'est ça, voilà. Exactement. Et du coup, d'être celle qui inspire aussi le plus de meufs à oser le faire et tout, parce que bah t'oses pas forcément le faire. Et du coup, voilà, je sais que je veux arriver là. Ouais. Et je sais que j'y arriverai pas en y allant tranquille, en y allant doucement et tout, quoi.
Est-ce qu'il y a eu un travail conscient sur travailler cette vision?
À fond.
Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement, que tu mets à jour régulièrement?
Je pense tous les tous les 2-3 mois, un truc comme ça.
Ok, tu réfléchis à ça?
Ouais, c'est ça, je me dis, bah vas-y, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu... Après, 10 ans, j'ai un peu de mal, tu vois, mais genre, un an et 5 ans, en général, je fais, où est-ce que je vais en être dans un an, où est-ce que je vais en être dans 5 ans? Et puis, en fait, tu vois qu'il y a des trucs que tu lâches à un moment, et des trucs qui restent, qui reviennent à chaque fois, tu vois, et du coup, ben, au final, ça affine, et je pense que ta vision, elle est faite pour évoluer quoi qu'il arrive, mais par contre, ce qui est important, c'est qu'à n'importe quel moment, t'aies une vision, tu vois. Même si c'est plus la même dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, on s'en fout tant que là, ce qui te fait agir aujourd'hui, c'est le fait de faire des choses qui t'amènent vers ta vision, quoi.
Est-ce qu'il y a une question à se poser pour développer sa vision?
Non, je pense que c'est aussi un travail, parce qu'en vrai, quand t'as pas l'habitude de le faire, tu sais, tu te sens pas forcément capable d'accomplir des trucs de ouf, tu vois. Enfin, je pense que moi, je pense que tout le monde en est capable si tu débloques les bons trucs dans ta tête, etc. Mais quand t'as, entre guillemets, rien fait d'exceptionnel dans ta vie, etc., comme c'était grave mon cas au début, bah, t'as du mal à te dire, bah, je peux être cette personne-là, je peux... Et du coup, ça demande déjà de déconstruire un peu, enfin, de t'enlever les barrières que tu te mets à toi-même, tu vois. Enfin, ouais. Tu dis à Margot d'il y a 3 ans, tu peux faire 100 000 euros par mois avec ton business et tout. Moi qui ai pas de business, qui ai rien fait, bah, genre, jamais de la vie, je pourrais y croire, tu vois. Ouais. Je suis en mode, mais n'importe quoi. Mais sauf que, de se poser la question au début, genre, ah bah, ça se trouve, Margot, dans un an, elle pourra faire, enfin, elle pourra vivre de son activité et gagner de l'argent par elle-même. Et ben du coup, déjà ça c'est une vision de ouf au début. Et en fait, c'est vraiment par rapport à où t'es aujourd'hui, de t'imaginer genre le plus ouf que tu puisses faire par rapport à où t'es aujourd'hui.
Ouais,
et en fait, tu vois que t'es largement capable de faire la première chose que tu te dis genre dans un an je vais être là. En fait, souvent tu te sous-estimes, tu peux faire beaucoup plus. Et en fait, en actualisant ça régulièrement, tu t'enlèves des barrières parce que tu te dis, vas-y, je me suis noté cet objectif-là, dans un an. Ça fait 3 mois, je l'ai déjà atteint. Bon, en fait, je peux faire beaucoup plus, beaucoup plus. En fait, plus tu te libères et que tu t'enlèves des barrières, plus ta vision, elle peut être ouf et elle peut vraiment correspondre à ce que tu veux au fond de toi, quoi.
L'update de la vision.
Mais
quoi.
C'est ça. Mais c'est hyper
Actualiser
important.
Actualiser sa vision.
Mais oui. Et je sais que là, si ça se trouve, si on suit cette théorie qui marche depuis le début, c'est que ce que je m'imagine capable de faire dans 5 ans, c'est trop de le faire en 2 ans, parce que je suis drivé par le truc.
Parce que tu vois, tu dis un truc intéressant, c'est que le fait de se sentir capable. En fait, le mindset, c'est ça.
Ah, mais oui.
Le mindset, c'est se sentir capable de faire un truc et de voir les opportunités, les saisir dans un certain cas, mais se sentir capable d'aller à tel endroit. Et je pense qu'en fait, au lieu de se dire dans 10 ans, je suis champion olympique, tu peux te dire, OK, qu'est-ce qui serait dingue déjà et que je me sens un peu capable de faire quand même, mais ça, je ne peux pas le faire. Enfin, aujourd'hui, je ne l'ai pas, je ne peux pas le faire, mais je me sens capable d'aller là et déjà voir un peu jusqu'où tu peux aller. Et ça, c'est ta vision sur peut-être 1 an, 5 ans. Puis ensuite, tu l'actualises au fur et à mesure. Parce que oui, forcément, les visions à 10 ans, c'est compliqué.
Ouais,
tu vois, c'est trop loin. Tu dis,
j'abandonne, ouais, ça me motive même pas. Genre.
Ouais, c'est trop abstrait.
Ouais, c'est ça.
Quand on vient te voir, quand tes clientes viennent te voir, quelles sont un peu les problématiques qui reviennent à chaque fois? Je te prends juste 40 secondes pour 2 choses. La première chose déjà, c'est que j'aimerais te remercier d'être arrivé jusque-là. Tu fais partie peut-être des 20% des auditeurs qui ont une bonne capacité d'attention. Et puis deuxième chose, j'ai enregistré en fait avec Margot ce que j'appelle la question off. La question off, c'est une question que je lui ai posé, que je ne diffuserai pas sur les réseaux. Et en fait, elle m'a expliqué comment elle faisait pour investir des milliers d'euros dans son business et comment elle a pu transformer une très mauvaise expérience de coaching en une très grosse opportunité pour son activité. On a parlé pendant 10 minutes. Et si tu veux accéder à ce contenu, à cette question off, eh ben, je t'ai mis le lien en description et je te l'envoie tout de suite par mail. Je te laisse évidemment avec le reste de l'interview de Margot. Elle va nous parler notamment de comment elle fait pour agir malgré la peur, de sa stratégie aussi sur LinkedIn, tu vas voir, c'est assez original, et puis de ses croyances sur l'argent. Bonne écoute.
100% mindset quasiment, ouais. Déjà. En vrai, pour avoir accompagné vraiment beaucoup de meufs, enfin beaucoup de même d'entrepreneurs en général, c'est pas que... Parce qu'il y a des trucs qui se distinguent un peu des fois entre les mecs et les meufs, je trouve, dans la manière de faire, etc., en général, bref. Mais pour le coup, c'est quasiment jamais une question de stratégie, de manque de... ça peut être un peu de manque de compétences, mais généralement c'est du mindset. C'est genre j'ai pas confiance, j'ai peur, j'ose pas passer à l'action, je suis pas sûre de moi, je suis pas à la hauteur. Comment est-ce que je fais pour me sentir, bah voilà, pour pas me sentir comme une imposteur. C'est vraiment des problématiques comme ça au début, quoi. Dans Boost on Mise, en tout cas.
Ok.
C'est principalement ça.
Ouais, le syndrome de l'imposteur.
À fond. Mais pour moi, en fait, toutes les problématiques mindset se résolvent de la même manière. C'est passe à l'action, fais des choses, tu vois. En soi, bon, après, il y a des problèmes plus profonds que d'autres, etc. Mais tous les trucs de syndrome de l'imposteur, de manque de confiance, de manque d'estime, en fait, tu peux le résoudre en faisant des choses, tu vois, et en faisant. Enfin, moi, c'est comme ça que je résous tous mes problèmes de manque de confiance et tout, quoi.
Ouais, parce que si tu fais, bah, tu sais que tu es capable d'eux. Et donc, tous les problèmes s'évanouissent, ces petits problèmes de manque de confiance. C'est parce que tu sais que tu l'as fait.
Mais comme tu disais, genre, le mindset, c'est vachement résumé autour de être capable d'eux. Bah, en fait, pour se sentir capable d'eux, bah il faut faire les choses, quoi, et tu te sens capable après. Donc en fait, tu peux régler beaucoup de problèmes juste en passant à l'action. Bah juste c'est compliqué, tu vois, mais en soi la réponse elle est simple. Maintenant, faut la mettre en pratique, mais tu vois, t'as pas de solution miracle de gens qui ont un secret de ouf pour c'est juste genre c'est la même chose pour tout le monde, tu vois.
Quand on s'était appelé en 2021 là, que tu m'avais dit grosso modo bon, voilà, j'ai explosé, quoi. Je m'étais dit, j'ai essayé de résumer dans mon petit journaling le lendemain.
Oui,
je m'étais dit.
Je fais pareil.
Okay, toi aussi, on en parlera d'ailleurs de ça. Mais je m'étais dit, ok, si tu devais résumer en quelques mots le pourquoi, j'ai l'impression que c'est le focus.
Ouais.
C'est-à-dire, je sais où je vais, je sais ce que je veux développer, je sais à qui je parle. Et le passage à l'action.
Ouais. Moi, j'aurais clairement résumé ça comme ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'encore une fois, je suis obsédée par là où je veux aller. Et en fait, il y a rien qui m'arrête pour y arriver, même pas mes peurs, même pas. J'ai peur comme tout le monde, hein. Mais en fait, c'est encore comme je disais d'ailleurs, c'est plus important pour moi de faire ce qui me fait peur plutôt que de regretter de pas l'avoir fait parce que j'avais peur.
Et en regardant tes vlogs, je me disais, est-ce que c'est un personnage qu'elle joue de faut y aller, faut passer à l'action, etc. Mais en regardant tes vlogs vraiment attentivement, en consommant pas mal de contenu, pas mal d'heures de contenu à vrai dire, je me suis dit. En fait, vraiment, tu partages tes peurs. Tu dis, j'ai rencontré telle personne qui est hyper connue dans l'industrie et ça me fait flipper.
Mais oui,
du coup, tu le dis. Tu dis, voilà, je vais y aller là, mais ça me fait un peu peur. Je suis pas forcément à l'aise quand il y a 50 000 personnes devant moi.
Carrément.
Et en fait, je pense que un des secrets de ton succès, c'est aussi ça. C'est que tu dis, voilà, ça me fait peur.
Mais, ouais.
Mais bon, je vais le faire quand même.
Mais c'est ça parce que, en fait, encore une fois, moi, je veux que les gens s'identifient à moi et je suis absolument comme tout le monde. Et genre là, quand j'avais ma conférence, je t'ai dit, pendant une semaine, je mettais des stories, genre là, j'ai trop peur. Le jour J, j'étais en mode, putain, ça y est, j'ai passé sur scène. Mais si je partage vraiment ça avec ma communauté, c'est aussi pour ça que j'ai un lien comme ça avec elle. Mais, en fait, c'est pas genre Margot, elle a peur de rien et elle arrive à enfin, genre, voilà, elle est surhumaine, un truc comme ça. C'est juste genre elle est exactement comme moi, mais elle fait les choses même quand elle a peur, quoi.
Ouais.
Et j'ai aucun mal à dire qu'il y a plein de trucs qui me stressent, plein de trucs qui me font peur, comme tout le monde, quoi.
Ouais, tu le dis. Au début, je me suis dit, ouais, est-ce que non, en fait, c'est réellement tu le dis, quoi.
Non, vraiment. Oui.
C'est un truc de fou. Forcément, hyper croissance, ça vient avec plein d'avantages, notamment financiers. Ça vient aussi avec plein de pas de forcément de désavantages, mais en tout cas d'éléments, quoi, qui n'existaient pas avant. Et notamment, je pense à un, surtout pour pas mal de gens qui nous écoutent, entendent ces chiffres-là et se disent, mais 100 000 euros par mois, rien que par an déjà, c'est exceptionnel. Et par mois, donc pour beaucoup, en plus c'est notre culture française, l'argent et des grosses sommes comme ça, ça peut être quelque chose d'un peu vertigineux. Est-ce que ton rapport à l'argent a dû évoluer quand t'as commencé à gagner ces chiffres-là, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du rapport à l'argent?
Bah, moi, de base, je viens d'une famille pas du tout, moyenne, qu'on n'en a jamais rien manqué de rien, on n'a jamais, pardon, manqué de rien, mais on roulait pas sur l'or du tout, tu vois.
Ouais.
Et surtout, je viens d'une famille qui est très anti-riche, anti-capitaliste, anti-système, machin. Et du coup, ils m'ont grave élevé là-dedans. Et j'ai toujours été un peu l'extraterrestre de la famille parce que même quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Je disais, genre, moi, je veux être riche et je veux être patronne, tu vois.
Okay.
J'avais pas d'ambition d'être vétérinaire ou quoi. Je voulais être riche et patronne. Et personne comprenait le pourquoi du comment, tu vois. Mais du coup, j'avais un peu déjà petite cette ambivalence de moi je veux trop gagner plein d'argent et tout, et mes parents qui me disaient ouais mais non, les riches c'est des égoïstes, ils pensent qu'à eux, et puis en plus c'est de la misère dans le monde parce qu'il y a trop de riches dans le monde, etc. mes parents ont évolué en même temps que moi aussi au niveau de leur rapport à l'argent, parce qu'ils ont bien vu que bon, leur croyance n'est pas forcément vraie, tu vois,
ouais.
Que les riches sont pas que des cons, des égoïstes et tout. Et du coup, que quand je me suis lancée, forcément, j'étais un peu, j'avais ce conditionnement un petit peu de, un peu de culpabilité, tu vois. Je me disais, en fait, si je gagne beaucoup, c'est cool, mais genre peut-être je vais prendre l'argent. En fait, j'avais un peu ce truc de plus je vais gagner moi, plus je vais prendre un peu aux autres, ouais. Etc.
Le jeu à somme nulle.
Ouais, c'est ça.
Ce que je gagne, mais, quelqu'un le perd.
Mais oui, mais alors qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Et puis, c'est pas du tout ça. Et en fait, j'ai dû déconstruire plein de trucs, me rendre compte que, ce que je croyais, c'était pas forcément vrai. J'ai aussi beaucoup écouté, justement, parce que souvent, tu critiques les riches, mais genre, tu les écoutes jamais parler, tu écoutes jamais leur vie, tu sais jamais ce qu'ils font et tout. Donc, j'ai beaucoup écouté des interviews, lu des biographies, essayé vraiment de voir factuellement et de casser ce que mes parents m'avaient enseigné de manière factuelle en me disant, lui, il est riche, pourtant, il est pas égoïste, lui, j'ai fait un compte
comme ça. Déconstruction
de croyances.
Ouais,
c'est ça. Et puis c'est venu petit à petit. Genre au début, j'ai déconstruit ça pour atteindre les 10 000 euros par mois. Et puis en fait, tu te rends compte que, les chiffres, c'est vertigineux, tu vois. Mais genre, vu que, moi maintenant, c'est déjà plus un truc incroyable. Pas du tout,
Parce que tout dépend en fait du cadre de référence.
Ouais. Mais c'est ça.
Et en fait, ton cadre de référence, s'il évolue.
Il évolue, oui.
Bon, c'est ce qui te permet aussi d'être plus sereine et de pas être là complètement noyé par des chiffres qui sont.
C'est ça, t'es obligé. C'est comme, en fait, quand ton objectif, moi au début, genre faire 10 000 euros par mois, c'était un truc qui me semblait, un truc de ouf. C'était mon objectif au début, obsédé par ça, encore une fois. Et en fait, dès que tu l'atteins, tu te dis, ton cerveau, il a déjà évoluer, tes croyances ont déjà évolué pour te permettre d'atteindre 10 000 euros par mois, par exemple. Mais en fait, après, tu te dis, c'est trop cool, mais c'est plus un truc qui est ouf parce que ton cadre de référence, il évolue. Et c'est pareil, en fait, pour n'importe quel montant. Et ça se trouve, un jour, je gagnerai 1 million d'euros par mois et je me dirais, en fait, ça va, alors que là, ça me paraît impossible à faire, tu vois. En fait, ça évolue pour tout le monde et du coup, maintenant, ça me paraît moins vertigineux, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont un peu bloqués par ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un blocage sur l'argent. On a tendance à diaboliser un peu dans notre culture et il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça vraiment, et moi je me dis toujours que quand on est entrepreneur, il faut réussir à avoir un rapport à l'argent assez sain, parce que sinon c'est compliqué. Rien que le fait de vendre, c'est compliqué, le fait de rentrer de l'argent, quand on a l'impression de prendre à quelqu'un quand on vend, c'est dur de développer son business. Et je me rends compte, en ayant croisé beaucoup d'entrepreneurs, que beaucoup d'entrepreneurs qui ont des gros problèmes avec l'argent, avec le rapport à l'argent, ont du mal à rentrer beaucoup de chiffre d'affaires.
Ah, mais c'est ça. Pour moi, c'est genre tes croyances qui déterminent littéralement ta vie, quoi. Donc, si tes croyances, c'est les riches sont comme ci, les riches sont comme ça, et que tu veux devenir riche, ça marchera pas. Tu vas être obligé de les déconstruire. Et moi, la technique que j'ai le plus utilisée, c'est vraiment genre de prouver factuellement à mon cerveau que c'est pas la vérité ce que je crois. Tu vois, c'est vraiment, par exemple, de me prouver à moi-même que les riches sont pas forcément égoïstes, qu'il y a des riches égoïstes, mais qu'il y a des riches très généreux. Par exemple, moi, c'était vachement ça, mes parents, genre les riches sont égoïstes, machin. Forcément, si tu penses ça, t'as pas envie d'être égoïste, t'as pas envie que tes parents te considèrent comme égoïste. Du coup, même si t'as envie de l'être, tu vas avoir des freins, tu vas pas faire des choses, ton cerveau va t'empêcher de faire certaines choses pour pas devenir ce que tes parents détestent. Logiquement, et du coup t'es obligé de déjà premièrement de te rendre compte de c'est quoi les croyances qui te bloquent. Je dis toujours à mes clientes, si par exemple je sais que moi je parle beaucoup d'argent, j'ai aucun problème avec ça, vraiment zéro tabou, et que ça, le fait d'en parler, ça m'a aussi aidé à me débloquer, tu vois, parce que là je sais que toute ma famille sait combien je gagne, c'est devenu un sujet
c'est devenu
normal,
okay, ouais.
C'est devenu grave ok. J'ai aucun problème à parler d'argent, à dire combien je gagne à n'importe qui. Et du coup, quand je dis à mes clientes, si par exemple tu m'entends parler d'argent et t'es un peu en mode ça te titille, ça te gêne, ça t'agace, je dis un truc, ça te saoule, ou même tu ressens des trucs un peu par rapport à ça, genre sais qu'il y a quelque chose qui freine. Et en fait, quand t'as une croyance qui te bloque, enfin moi j'ai appris à m'observer. Je pense que c'est aussi ça beaucoup que je fais en dev perso, c'est vraiment m'observer et regarder comment je réagis physiquement à certaines choses, tu vois. Et en fait, si t'as des croyances qui te bloquent ou quoi, tu t'as un ressenti physique, faut juste apprendre à le vérifier, être attentive à ça, quoi. Et en fait, moi j'ai pris l'habitude du coup d'observer mes croyances, d'observer mes ressentis, et dès qu'il y a un truc qui me freine, que je sens physiquement, me demander, ok, qu'est-ce que je crois par rapport à ça? Je pense que le meilleur moyen de changer une croyance, c'est déjà de l'identifier pleinement, tu vois, c'est de dire, ok, je crois ça, j'ai ce problème-là avec l'argent, j'ai ce problème-là, je pense que si je gagne beaucoup d'argent, je serai comme ci ou je serai comme ça, mes parents m'ont dit que ci, que ça, et une fois que tu l'identifies, bah en fait, le plus gros du taf est fait, je pense, et il s'agit de juste re-switcher ton cerveau différemment et te dire, bah voilà, il y a ça qui factuellement montre que c'est pas forcément vrai.
Des contre-exemples, en fait.
Ouais, ça, des contre-exemples. Moi, j'ai vachement marché par ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui marchent par, par exemple, l'écriture d'une nouvelle phrase, enfin, d'une nouvelle croyance. Je pense que ça peut marcher aussi, mais moi, c'est vraiment le contre-exemple qui m'a le plus aidé, quoi.
Et justement, tu parles d'écriture.
Oui.
Apparemment, ce que j'ai compris de ton quotidien, de tes routines, c'est que tu écris pas mal. Tu lis aussi pas mal. Tu lis, tu écris.
Ouais.
Comment tu l'intègres dans ta journée? Qu'est-ce que t'écris? Comment ça impacte ton quotidien?
Ouais. Bah alors moi déjà, j'écrivais avant même, enfin quand j'étais au lycée, au collège et tout, parce que j'ai toujours eu besoin d'avoir un peu un journal intime, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, je pense beaucoup, je réfléchis à plein de trucs, et j'ai tendance à facilement stressé, angoissé, être pas hyper bien et tout, et mal gérer ça. Enfin, je gérais très très mal avant. Et du coup, depuis que je me suis lancée, comme tu dis, bah, une grosse croissance et tout, enfin, mine de rien, c'est quand même ultra stressant. Enfin, j'ai été hyper stressée, gérée hyper mal, je faisais des crises et tout. Et en fait, trouver l'écriture, le fait d'écrire tous les matins et dans les périodes ultra stressantes, le matin et le soir, ça me permet vraiment d'enlever une énorme partie de mon stress, parce que je l'écris à un endroit. Et moi, c'est principalement ça que j'écris. C'est que, en fait, par rapport à ce que je ressens le matin en me réveillant, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de décharger, que ce soit du positif ou du négatif, parce que j'ai tendance à être extrême dans les deux trucs, tu vois, c'est-à-dire que s'il y a un truc stressant, je vais être ultra angoissée, s'il y a un truc positif, je vais être en mode c'est le plus beau jour de ma vie, c'est incroyable, et j'essaie d'apprendre un petit peu à réguler, parce que c'est hyper fatigant, c'est pas hyper sain, je pense, d'être vraiment constamment en mode, t'as un jour, tu te dis, y a rien qui va, une heure après, j'ai la meilleure vie du monde, c'est magnifique. C'est pas hyper sain, je trouve. En tout cas, moi, je le vis pas hyper bien. Du coup, j'essaye de tous les matins, que ce soit positif ou négatif, tout mettre sur mon cahier. Et en fait, quand c'est sur mon carnet, c'est moins intense dans ma tête. Et du coup, je le fais tous les matins.
Quelle a été une des prises de conscience récemment là que t'as eu en écrivant, que tu peux nous partager?
Tu vois, récemment, là, mon objectif du coup que j'ai pas atteint de mes 100 000 euros en juin, j'étais persuadée de vouloir le faire, et en fait, j'ai manqué à genre 9 000 euros, tu vois. Et du coup, je me suis mis dans un état pas possible, en mode, mais genre, je suis une merde et tout, c'est pas possible. Je me suis dit, un objectif, j'arrive pas à l'atteindre. Je m'en voulais de ouf. Et ça, en fait, c'est le dernier truc que je me suis dit. En fait, tu peux genre d'apprendre, je veux toujours plus, je veux toujours aller plus loin et tout, mais faut pas que j'oublie que ce que je fais c'est déjà bien, et déjà me satisfaire de ce que j'ai. Je trouve c'est hyper difficile de trouver la balance entre tu veux aller plus loin, tu veux faire plus, mais t'as quand même un certain c'était déjà tu peux te satisfaire déjà de ce que t'as déjà fait. Et en fait, moi je me rends compte que en plus mes objectifs parfois c'est un peu de l'ego plus que vraiment un truc qui m'anime personnellement. Là c'était clairement de l'ego, et du coup c'était ça que la réflexion que je me suis faite, c'est que j'apprenne à peut-être moins m'identifier à mes résultats, tu vois, et pas quand j'atteins un objectif me dire je suis trop forte et tout, je me sens bien, et dès que je l'atteins pas, non, je suis nulle, je suis pas capable et tout. Encore une fois, essayer de trouver un juste milieu, quoi.
C'est vrai que l'écriture, j'ai l'impression que ça permet en fait d'aller à ce niveau-là de compréhension de soi-même.
Mais grave.
C'est un peu ce qu'on dit, c'est j'écris pour savoir ce que je pense.
Ouais, mais c'est exactement ça.
Ouais, parfois on a besoin de passer par là pour vraiment structurer sa pensée et se dire en fait c'est ça que je pense, que j'ai jamais réussi à verbaliser. En fait, c'est ça que je pense. Et d'écrire pour soi, c'est assez assez puissant.
C'est ça. Et puis en vrai, mine de rien, sur 2 ans et demi, tu retraces tout ton parcours. Enfin, moi, je kiffe relire ce que j'écrivais au début, l'évolution que j'ai eue. Enfin, je trouve ça trop ouf de garder une trace de toutes tes journées de ta vie, quoi.
Je crois que tous les plus grands, tous les entrepreneurs qui ont des résultats dingues ou des gens qui ont des vrais leaders, on va dire, de ce monde, écrivent, en fait.
Ouais.
Prennent le temps, même des gens qui ont pas trop le temps.
Ouais.
Ils écrivent et j'avais lu la biographie de Napoléon, de Jacques Bainville, que je vous conseille d'ailleurs, qui est une vieille biographie du début du XXe. Et en fait, on apprend que Napoléon, il lisait énormément. Okay. Il transportait sa bibliothèque sur les champs de bataille et tout.
Putain.
Il avait une sorte de charrette avec sa bibliothèque. Et surtout, en fait, il écrivait énormément. Tous les jours, il écrivait, donc que ce soit des correspondances, parce qu'à l'époque, c'était ça, et, ou alors son journal peu perso, quoi.
Ouais.
Et donc, il y a des tonnes d'écrits de Napoléon, et c'est pour ça qu'on a pu faire des biographies assez précises de ce qu'il pensait, ses ressentis, de ce qu'il faisait, parce qu'il écrivait toujours après jour, voilà ce qui se passe. Et un truc incroyable, c'est qu'il servait aussi de ça pour faire un peu de la propagande, parce que, en gros, les gens savaient pas ce qui se passait sur le front, et donc il avait créé le journal de la Grande Armée. C'était lui-même qui l'écrivait, en fait.
Okay.
Et il écrivait ce qui se passait sur le front, mais avec un côté un peu propagande.
Oui, bien sûr.
Et donc, il envoyait. Donc, du coup, les gens à Paris pouvaient lire ce qui se passait, les exploits de son armée.
Mais c'est trop bien.
Mais l'écriture, en fait, je trouve que, et même à un moment où on est un peu dans l'IA, où on a l'impression que tout ça, ça va moins nous faire écrire, je pense que écrire un peu, prendre le temps d'écrire, c'est primordial juste pour structurer sa pensée.
Ouais, c'est ça.
Et je trouve que c'est hyper important, donc ça m'étonne pas que tu fasses.
Moi, j'ai jamais arrêté de le faire. C'est l'habitude que je tiens le plus, et même si c'est 5 minutes, en fait, j'ai les quelques fois où j'arrête, genre je vois directement la différence en termes de comment je me sens. Tu vois, par exemple, je vais partir en vacances, ou je sais pas, je vais être dans une période vraiment, vraiment, vraiment speed. Je vais me dire, vas-y, c'est bon pour quelques jours, j'arrête, je le fais pas. Je vois instantanément la différence. Ouais. C'est-à-dire que je suis mes émotions, ça va pas du tout, je suis ultra angoissée pour rien, enfin vraiment ça me régule aussi mes émotions, quoi. Ouais. C'est trop important pour moi, vraiment.
J'avais une question là en t'écoutant. En fait, tu crées beaucoup de contenu et du coup t'as une certaine transparence sur qui tu es, t'as pas de mal à parler de tes émotions, par exemple, t'as pas de mal à parler qu'à un moment t'as un petit nervous breakdown sur des trucs comme ça. J'ai vu dans quelques vlogs que tu disais voilà, il y a des choses, donc tu partages vraiment. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur toi? Toi qui es très transparente, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas de toi?
Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas de moi? C'est une excellente question, parce que franchement, j'essaie d'être de partager le plus possible de choses sur moi. Tu sais qu'en vrai, je pense qu'il y a très peu d'aspects de ma personne que j'ai pas évoqué, genre même mes trucs privés, mes émotions, genre enfin j'ai vraiment tout partagé. Je pense qu'il y a peu de choses que les gens comprennent pas sur moi. Je réfléchis s'il y a pas un truc qui me vient, mais peut-être qu'il y a des gens qui se demandent comment je fais pour comme tout à l'heure, pour aller si vite. Peut-être qu'ils pensent qu'il y a des choses que je dis pas, des choses que je garde pour moi, mais en fait j'ai tellement dès le début eu une démarche de je te partage tout, genre dès mes premiers mois j'étais en mode mes premiers chiffres, mes premières clients, mes premiers doutes, mes premiers échecs, j'ai toujours tout partagé. Tu vois, il y a pas un échec que j'ai vécu que j'ai pas dit à ma communauté, que j'ai pas raconté en long, en large, en travers, sur l'instant, après, les leçons que j'en ai tirées, enfin même mes plus sombres erreurs, les trucs, là l'année dernière par exemple, j'ai vécu une période vraiment de merde à tous les niveaux, perso, pro, avec mes clientes, avec mon équipe et tout, j'ai tout partagé, genre même les trucs pas bien que j'ai fait, les erreurs que j'ai faites, genre j'ai aucun mal, genre j'ai même pas peur qu'on me juge, parce que je me dis en fait il y a forcément des gens qui me jugent. Il y a même des gens qui me disent tu devrais pas partager autant, peut-être qu'on te fait moins confiance si tu partages un peu tes erreurs et tout, parce que tu dis des trucs que t'as mal fait. En fait, genre je crée un lien de ouf avec mon audience comme ça, et même la pire de mes erreurs, la plus grande honte et tout, genre j'ai pas peur de le partager.
Et
du coup, en fait, ce qui fait que vraiment pour le coup la transparence avec mon audience elle est quasi
totale,
quoi. Vraiment totale.
Hyper intéressant, parce que je me posais cette question, je me dis mais en fait tu transmets énormément, quoi. Tu transmets énormément, mais tout, quasiment tout. Et ça, c'est forcément, ça te permet de tisser un lien.
C'est ça.
Incroyable.
Et puis, encore une fois, ça casse la barrière. Je trouve que, tu sais, quand tu construis ton business ou ton personal branding, etc., t'as beaucoup de gens qui veulent, enfin, tu sais, qui gardent malgré eux une barrière, enfin, une distance avec ton audience, parce que t'as envie de montrer que ce qui va bien, t'as envie de montrer ce qui marche bien, ce qui se passe bien pour toi, tes résultats, tes objectifs, etc. Et du coup, en fait, le problème, c'est que ça crée une énorme distance avec les gens qui te regardent, parce que, pour eux, ça va pas, pour eux, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, ils galèrent, leur stratégie, elle marche pas, ça fonctionne pas, et ils te voient, toi, dire que tout va bien, que c'est tout beau, c'est tout rose, qu'en plus, t'as pas de problème dans ta tête, que tout est clair, tout est sain, tout fonctionne. Mais en fait, ils peuvent pas s'identifier à toi. Et du coup, t'es moins inspirant pour eux, tu vois. Enfin, moi, je sais que quelqu'un qui m'écoute et qui suit tous mes contenus, peut se dire, bah en fait, ouais, Margot, elle a vraiment, enfin, genre, je pourrais faire comme elle, tu vois. Ouais. Je peux avoir ses résultats.
Tu peux t'identifier.
Ouais, c'est ça.
Je suis d'accord. Là, ouais. En ayant écouté beaucoup de contenu, je te dis, y a pas de grand secret.
Ouais, c'est ça. En c'est fait. Une meuf normale, juste, bah, elle passe à l'action et tout. Tu vois, c'est vraiment ce que les gens me disent en général. C'est que t'as pas une barrière, je suis pas un génie, je sais pas, enfin, j'ai pas de talent non plus de ouf, enfin.
Et je pense que le fait, en fait, ce que t'as pour toi, c'est que tu sais que l'erreur, elle est passagère, ou tu sais que l'échec, il est pas définitif. Ce qui fait qu'en fait, t'as pas problème d'en parler, parce que tu dis voilà, ça j'ai raté, mais je vais tout faire pour derrière réussir.
Et c'est ce qui s'est toujours passé. Et moi, quand tu me dis genre vas-y, un échec que t'as eu, ben j'ai du mal à me dire vraiment j'ai eu des échecs, parce qu'à chaque fois que j'ai eu des échecs clairement, ben en fait ça s'est suivi, enfin ça s'est reparti après quoi, je me suis relevé de tout tous mes échecs, et ça les gens le voient, du coup ils sont en mode putain, à ce moment-là elle a dit ça, elle était dans le mal, elle a pas réussi à faire ça, elle voulait ça, elle l'a pas eu, bah maintenant elle en est là, en fait moi si je vis un échec, ça veut dire que moi aussi je peux aller là après.
Ouais.
Du coup c'est full transparent quoi.
Tu passes beaucoup de temps à discuter avec tes clients ouais, tes clientes tous les jours?
Bah alors
parce qu'à une époque, j'ai l'impression que tu passais énormément de temps en MP sur Instagram à discuter
alors,
avec
ça,
des
je
clients,
le fais,
ce
je
qui
le
est
fais,
quand même un super pouvoir, quoi.
Oui.
C'est dur pour la majorité
clairement.
Des gens.
Mais là, je le fais. Je pense que je passe encore une heure par jour dans mes DM Insta, tu vois. Donc
okay.
Bon, c'est moins qu'avant,
quand même,
mais quand même. Et avant, je passais dans des 2-3 heures à parler avec mes clientes ou mes prospects ou mes abonnés, parce que je pense que, en fait, encore une fois, moi, mon business, il repose sur la connexion émotionnelle avec mon audience. Et quelqu'un qui a pas, enfin encore une fois, moi j'ai la chance, et pourquoi ça marche bien, c'est parce que je fais là où je suis, de genre où j'aime le faire, enfin je fais ce que j'aime faire naturellement, tu vois. Donc moi, créer du lien avec les gens, parler avec les gens, créer du contenu, c'est des trucs que je fais naturellement. Et vu que tout mon biz repose sur la connexion émotionnelle avec mon audience, ben en fait quand on dit le 80-20, loi de Pareto machin, moi 20% des actions les plus importantes, c'est, enfin, ça inclut les DM avec mon audience, tu vois, parce que, enfin, c'est directement ce qui va me permettre de vendre ensuite, parce que ça va créer un lien de ouf, quoi.
Comment tu fais pour convaincre de nouvelles personnes, autant de nouvelles personnes chaque mois? Selon toi, comment t'as identifié, quel est le levier que t'as là-dessus? Parce que convaincre une fois quelques personnes, c'est compliqué, mais chaque mois, tu dois avoir de nouvelles femmes entrepreneurs qui se disent, c'est peut-être pour moi, en fait, Boost ton biz.
Ouais. Bah alors, déjà, il y a l'effet cumulé. Ça fait un an et demi que je parle de Boost ton biz. T'as des meufs qui me suivent depuis 6 mois, depuis 8 mois, depuis un an, qui au bout d'un moment se disent, bon, vas-y, j'y vais parce que j'ai pas avancé, etc. Donc, t'as des meufs tous les mois qui se décident alors que ça fait 6 mois qu'elles se posent la question d'eux.
Okay.
Donc, déjà, ça aide. Ça, c'est un effet cumulé. Et là aussi, ce qui m'a fait vraiment scaler, c'est d'organiser des challenges gratuits tous les mois. Je fais une pause l'été, mais en fait, en gros, j'organise un événement gratuit par mois.
Ouais, donc c'est un événement en ligne.
Ouais, c'est ça. Là, par exemple, ces 3 derniers mois, c'était des challenges de 5 jours.
Ouais.
Je ferai peut-être pas autant les temps prochains parce que c'est quand même fatigant. Mais en gros, pendant 5 jours, je réfléchis à une promesse, un contenu que j'ai envie d'apporter. Et en fait, je recrée l'ambiance Boost ton biz, la communauté, le côté lien. Je mets toute l'équipe de Boost ton biz sur les challenges qui m'aident à animer, etc. Et en gros, pendant 5 jours, on balance un max de contenu, des exercices, tout le monde motive les filles, il y a du soutien, de l'entraide entre les filles, etc. Et du coup, en fait, on leur donne un peu un aperçu de ce que c'est Boost ton biz. Et ensuite, on leur dit, maintenant, si tu veux continuer avec nous sur le long terme, à vie, dans Boost ton biz, en fait, faut acheter le programme. Ouais. Et du coup, le fait de faire ces petits challenges-là, c'est ça qui m'a aidé, là, ces derniers mois, à vraiment scaler, quoi.
En fait, la structure de ton business est assez simple. Finalement.
Elle est ultra simple.
T'as pas énormément de tunnels, etc.
Non, pas
c'est-à-dire
du tout,
que
zéro.
Communication constante via ton contenu, les challenges tous les mois, si j'ai bien compris, qui te permet d'avoir une sorte de lead generation, et grosso modo ton offre.
C'est ça.
Une seule offre.
Il y a que ça, c'est ça. En fait. Et en fait, c'est exactement ça. J'en ai fait un post la dernière fois sur LinkedIn. Je me dis, mais enfin, en tout cas pour moi. La simplicité, c'est une valeur hyper importante, et scaler mon business revient à simplifier tous mes process, tous mes systèmes, tout. Enfin, même avant, j'avais une plus grande équipe, j'ai restructuré, maintenant j'ai vraiment que des trucs essentiels, et mon système, il est hyper simple. Je crée du contenu tous les jours, je renvoie vers un challenge à la fin du mois, je présente ma seule et unique offre, et voilà, quoi.
Ouais, vraiment,
c'est vraiment
aller à l'essentiel,
quoi. C'est ça. En fait, mes deux seuls challenges là, c'est comment je deviens plus visible et comment est-ce que je perds pas en qualité pour mes clientes. S'il y a 50 personnes qui arrivent tous les mois dans les prochains mois, c'est autre chose que 20 personnes. Enfin, tu vois, c'est un autre challenge, quoi.
Quelle est la compétence que t'aimerais avoir mais que tu n'as pas aujourd'hui?
Savoir être taper du poing sur la table, dire les choses et tout. Genre, okay. Je suis ultra gentille. Dans le management, c'est un peu compliqué. Tu vois, genre, j'ai pas jamais envie de faire de mal aux gens ou même de dire non. Je suis hyper gentille. On marche facilement dessus. J'ose pas trop m'affirmer et tout. Okay. C'est clairement ce qui me manque. Genre, dans des réunions, des trucs comme ça, c'est encore mon plus gros point faible.
Ouais.
J'ai du mal vraiment à... Voilà, à ouvrir ma gueule, à parler, enfin, à dire les choses. Surtout, en fait, c'est vraiment d'aller en contradiction avec les gens, de savoir que même, tu vois, les filles de mon équipe, j'ai envie qu'elles me trouvent cool, j'ai envie que les gens me trouvent sympa, j'ai envie que les gens me trouvent gentille, j'ai pas envie de faire du mal, j'ai pas envie de blesser, j'ose pas aussi le faire. Mmh. Et du coup, ouais, c'est clairement ça que j'aimerais avoir naturellement. Ça, pour le coup, je ne l'ai pas du tout naturellement. Ouais. C'est vraiment un point faible. J'ai du mal à travailler.
Et est-ce que ouais tu le travailles ou c'est quelque chose que tu t'es dit j'ai pas forcément force. Besoin de...
Si c'est grave important et enfin on m'a marché dessus plein de fois, on m'a trahi plein de fois, je suis hyper naïve aussi, enfin je me dis tout le temps genre vu que moi je suis enfin genre je suis gentille et j'ai pas envie de trahir les gens et tout, je m'attends à ce que tout le monde le soit avec moi. Du coup je vois pas forcément les red flags des gens, j'ose pas le dire si je les vois, etc. Et du coup si j'essaie grave de le travailler, même tu vois genre là de plus en plus il y a plein de gens qui me demandent viens on va boire un café, viens on va discuter, on se voit et tout. En fait rien que dire non à ça me demande déjà un effort de ouf. Je suis en mode je trouve mille excuses de je suis désolée en ce moment, je suis débordée, alors que factuellement je peux pas dire oui à tous les gens qui me proposent un café bien ou sûr. Qui me proposent une visio. T'es chaud, on fait une visio pour que tu me présentes ton activité, tu me donnes un peu des conseils, ou alors on échange, on crée des synergies et tout. Maintenant, je peux pas dire oui à tout le monde. Ouais. Et rien que ça me demande un effort de ouf de dire non à quelqu'un comme ça. Ouais. Du coup, ça se travaille petit à petit, mais c'est pas facile, quoi.
Ouais, pas évident. Clairement. En plus, t'es suivi par des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes même. Ça commence à être pas mal.
Et depuis que je suis à Paris, on me demande souvent d'aller boire des coups, d'aller boire un café.
C'est très Paris, ça.
Ouais, c'est ça. Et bon, moi, je veux bien de temps en temps, mais je peux pas faire ça toute ma journée, quoi.
Ouais, tu peux pas. J'ai une question un peu différente, mais mis à part, évidemment, d'avoir créé ton business, de quoi t'es la plus fière?
Je pense d'avoir trouvé un peu un sens à ma vie et une mission à travers mon business. Tu vois, c'est que l'indépendance des femmes et la liberté des femmes, etc., c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur personnellement, tu vois, enfin dans ma vie de tous les jours. Et le fait d'avoir réussi à trouver une mission qui vraiment m'anime en plus de mon business, et ça on en a pas parlé, mais je pense que le fait que j'ai autant envie... Tu vois, même si j'étais pas payée pour le faire, ça a toujours été un combat que je voulais défendre, un truc que je voulais porter, etc. Et le fait de pouvoir, à travers mon business, permettre justement, littéralement à des femmes de devenir indépendantes et de devenir libres et de vivre la vie qu'elles veulent vivre et de laisser personne leur dicter leur vie, etc. C'est un accomplissement de ouf pour moi. Si t'enlèves l'aspect argent, etc. Rien que ça, genre, je me couche le soir, je suis fière de ça, tu vois, je suis contente de ça. Et du coup, c'est aussi, je pense, le fait d'être animée par un truc qui est un combat plus important que gagner de l'argent et avoir un business, ça m'aide aussi, je pense, à aller plus loin et à me bouger et à continuer d'avancer. Ouais. Quoi.
Ouais, tu vois, c'est ce qui est. Parfois, on se demande. En fait, avoir une vision, avoir un pourquoi.
C'est ça.
Ça change tout.
Mais oui, mais oui.
On se demande ce qui manque quelquefois, ce qui manque souvent. C'est d'avoir un pourquoi. C'est pour ça que Simon Sinek, il a vendu des livres Find Your Why.
Ouais, je les ai tous lus, clairement.
Parce que pourquoi ça a parlé à tout le monde, ce truc-là? Parce qu'en fait, tu te dis, oui, en fait, si je sais pourquoi je me lève le matin,
c'est ça.
Ça change tout.
Et puis, ça t'aide quand t'as pas envie, enfin, t'as forcément des moments où t'as la flemme, où t'es pas bien, où il se passe des trucs, ou, enfin, voilà, des galères qui t'arrivent et tout. Mais en fait, quand tu sais que t'as une raison qui est plus grande que toi et qui va aider tellement de gens, tu peux pas te permettre de rester dans ton lit. Enfin, tu peux te permettre un petit peu, mais genre, faut que tu te bouges, faut que tu fasses les choses, faut que t'avances, même si t'as peur et tout, parce que t'as, enfin, moi, je me dis, genre, il y a limite, il y a des meufs qui comptent sur moi, là, qui le savent pas encore, mais qui ont besoin de moi pour avoir, de moi et de mon équipe et de Boost On Biz pour avoir la vie qu'elles veulent et pour être libre, indépendante. En fait, ça me drive de ouf.
Est-ce qu'il y a une leçon un peu de vie que t'as mis du temps à apprendre ou à comprendre?
Attends, une leçon que j'ai mis du temps. Et en vrai, il y en a plein, j'ai tendance à être un peu, enfin voilà, à avoir besoin de répéter X fois la même erreur avant de me rendre compte que voilà. Mais je pense en vrai que la leçon de vie la plus importante, c'est pas hyper fun, mais c'est que les gens ne sont pas aussi genre forcément bienveillants et honnêtes que ce que je pensais, tu vois. Mmh. En vrai, c'est une leçon un peu qui fait bader, mais j'ai mis ultra longtemps à la comprendre. C'est que moi, j'ai toujours vécu un peu dans le monde des bisounours, genre tout le monde est gentil, tout le monde veut le bien de tout le monde, il y a pas de raison que quelqu'un soit méchant ou que quelqu'un soit malveillant, etc. Et depuis que je suis entrepreneur, à plein de reprises, je me suis rendu compte que cette théorie-là, elle marchait pas du tout et qu'en fait, il y a plein de gens qui, pour X ou Y raison, hein, je sais pas si l'être humain, il est bon ou mauvais, je pense qu'il y a les deux, mais il y a plein de gens pour des raisons, enfin, pour X raisons, qui te veulent pas forcément du bien, qui ont pas trop de scrupules à te trahir, qui ont pas trop de scrupules à faire des trucs dans ton dos et tout, qui sont pas forcément ultra loyaux. Moi, c'est des valeurs qui sont méga importantes, genre la loyauté, la fidélité, entre guillemets, le fait de pas trahir les gens avec qui je me suis engagée ou quoi, c'est hyper important. Et en fait, je me suis rendu compte à plein de reprises que c'est pas le cas de tout le monde. Et en vrai, je pense que c'est la leçon qui m'a le plus ouvert les yeux, pas forcément positivement, mais j'ai mis vraiment du temps à comprendre, quoi.
Ouais.
Mais en vrai, bon, c'est le jeu, hein.
Et du coup, il y a des choses qui ont changé à ce moment-là, quand t'as
compris
ça. Ouais,
carrément. Bah, là, maintenant, c'est simple, c'est que je suis, genre, quand je rencontre une personne, je suis neutre sur, est-ce que c'est une, entre guillemets, dans ma perception des choses, une bonne personne ou une mauvaise personne, enfin, est-ce qu'elle, tu vois, je suis en mode, je vais pas forcément faire confiance, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de la confiance que je donne aux gens. Maintenant, je suis en mode, ça se mérite et ça se gagne, tu vois. C'est pas, avant, c'était, je te rends compte, t'as l'air sympa, je te donne toute ma confiance et j'ai même plus aucun doute et je vois même plus les red flags parce que je me suis dit, si je te fais confiance, donc c'est bon. Et maintenant, c'est plus du tout ça.
Ouais, je suis un peu comme ça. En vrai, je suis un peu du genre à avoir une sorte d'a priori positif sur les gens.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je me dis, je rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un de sympa, je peux lui faire confiance, tu vois. Je me dis pas, j'ai du mal à me dire, il y a des gens qui ont des a priori négatifs et qui ensuite se disent, en fait, c'est une bonne personne. Et moi, j'avoue, avoir un a priori positif, je me dis, tout le monde est bienveillant et tout ça.
C'est ça.
Et ouais.
Et en fait, moi, c'était clairement le cas, mais je me suis vraiment, je me suis tombée de haut plein de fois dans le biz, plus dans le business que dans ma vie perso, en vrai.
Ouais.
Mais du coup, ça trahit aussi que les gens le sont dans la vie perso, forcément, mais, franchement, je me suis tellement fait un peu berner et tout que maintenant je suis en mode, surtout professionnellement parlant, pour avoir ma confiance, genre vraiment ça devient de plus en plus chaud, quoi.
Ça, c'est
genre là, mon cercle il est restreint et pour rentrer dedans c'est plus compliqué, quoi.
Ça, c'est une leçon
de
vie.
C'est une bonne leçon.
Ouais, c'est leçon. C'est une bonne
vraiment,
leçon.
Vraiment.
Et est-ce qu'il y a des gens que t'as croisés sur ton chemin? Qui ont eu vraiment une influence énorme en fait dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es aujourd'hui?
Plein de gens, ouais. Plein de gens, tous mes... en fait là, je me suis fait plein de potes en vrai entrepreneurs depuis le début. Encore une fois, je crée facilement des liens avec les gens, donc en fait, j'ai besoin de créer des liens, d'être avec des gens pour avancer, pour évoluer. Et du coup, chaque personne que j'ai rencontrée, en vrai, même les gens qui m'ont un peu trahi et tout, finalement, ils m'ont servi d'une manière ou d'une autre. Et en fait, j'ai été inspirée, impactée et changée par quasiment tous les gens que j'ai rencontrés. Des gens qui sont devenus plus proches que d'autres. Enfin, j'ai des très bons amis maintenant, je peux dire, dans l'entrepreneuriat, qui m'ont grave aidé, ma famille m'a grave aidé, mes potes d'enfance m'ont grave aidé, enfin en fait je me nourris grave des gens et de ce que les gens m'apportent, quoi.
Ouais.
Donc plein de gens qui ont changé un peu mon chemin, quoi.
Il y a une question que j'aime bien dans la même lignée, c'est si tu devais remercier quelqu'un que tu n'as jamais eu l'occasion de remercier mais qui a eu un impact incroyable dans ta vie, qui t'aimerais remercier là?
Je réfléchis. Ah, en vrai c'est j'ai un truc qui vient direct, c'est que tu vois, quand je suis partie en Australie après mes études de droit, en fait t'as un mec qui a changé ma vie mais qui en a aucune idée. C'est le premier mec que j'ai rencontré qui était digital nomade en Australie, et en gros lui il m'a dit, mais d'une manière hyper simple, moi je fais des sites internet, je gagne 3-4 000 euros par mois, mes clients ils me payent, puis là je suis en Australie, je fais le tour du monde et tout, et genre voilà, ils me payent comme ça, je suis micro-entrepreneur et tout. Et là, mais ça a fait un switch dans ma tête. Genre vraiment, c'est grâce à cette personne que j'ai cherché digital nomade, que je me suis rendu compte que c'était possible et tout. C'est un mec que j'ai croisé que j'ai croisé un soir à une auberge, et je pense qu'on se suit sur Insta encore, mais je sais pas, enfin ouais. Voilà, il y a pas de contact, rien du tout. En fait, ce mec, juste en me disant bah voilà, je fais des sites et tout, genre en fait ça a fait un titre dans ma tête. Je me suis dit mais waouh, il a le même âge que moi, il a pas fait d'études, il a rien d'extraordinaire. Il est en Australie, il voyage, en même temps il est payé pour ça. Moi je suis en des études de droit que je déteste, je dois reprendre un master en rentrant en Australie, ça me donne envie de mourir de me dire que je vais retourner à la fac. Et en fait, juste ce mec là, il a, enfin par ce qu'il m'a dit, il a changé toute la trajectoire de ma vie quoi. Je trouve ça ouf des fois de se dire comme une rencontre à un moment t'es peut changer toute ta vie quoi. C'est un truc de ouf. Et là c'est de la chance un peu.
Là c'est ouais, c'est le hasard. Enfin, on dit qu'il y a jamais de hasard, oui. mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a juste un échange, ouais. Parfois quelqu'un qui te dit un truc. Tu vois, moi sur cette question par exemple, j'ai fait du rugby quand j'étais gamin, mais je me suis mis à quand j'avais 12 ans et en fait ça a changé ma personnalité. Quand j'étais tout petit, j'étais un peu peureux, ouais. Tu vois, et en fait le rugby d'un coup ça m'a complètement changé ma personnalité, et puis avec l'adolescence en même temps
ouais,
en plus.
J'avoue.
Et en fait, il y avait un éducateur, c'est l'école de rugby, donc ils appellent les éducateurs, qui était assez âgé, qui était prof en ZEP dans les banlieues à Toulouse, le match c'était à Toulouse, et il s'appelait Monsieur Surac. On l'appelait Monsieur Surac, c'est-à-dire qu'on le vouvoyait et tout. Et ce gars-là, en fait, il prenait des gars des cités, il venait les faire jouer au rugby, il nous entraînait, et ce gars-là, en fait, j'ai jamais vraiment remercié. Ouais. Mais son impact a été énorme dans ma personnalité, dans ce que j'ai pu créer après, dans ma confiance en moi. Et il change la vie de pas mal de gamins, ce gars-là. Et, enfin, il a changé, il doit être assez âgé aujourd'hui. Il doit avoir 85, 90 ans, peut-être.
Oui, mais il a changé.
Mais il a changé. Et cette question, elle est incroyable parce qu'on se rend compte des petits échanges, petits moments. Désintéressés souvent.
C'est ça.
Qui sont
hyper importants. Désintéressés et où les personnes ne se doutent même pas qu'ils ont eu cet impact-là. Mmh. Tu vois, genre, moi, il a aucune idée qu'il a eu un impact dans ma vie. Et de la même manière que nous, on a dû avoir un impact de ouf dans la vie des gens, alors que nous, on a juste dit un truc, comme ça au cours d'une discussion. Et tu sais pas comment les gens ça tilt après. Mmh. Et tu peux tout changer par rapport à ça. Et ça, clairement, c'est du hasard. Après, bon. Il y a hasard, mais j'aurais très bien pu prendre son information et me dire bon bah il a de la chance, moi je pourrais pas, tu vois.
En tout cas à ce moment-là ça a résonné pour toi.
Mais voilà, à ce moment-là il me l'a dit au bon moment, et ouais, c'est trop ouf de se dire que comme les gens ils peuvent avoir une influence sur le reste de ta vie par une simple discussion. Moi ça me fascine.
Et ça peut nous inciter à nous dire ben pourquoi ne pas discuter justement, pourquoi ne pas échanger. Parce que si chaque fois que t'as
clairement.
Tu vois, mais c'est pour ça que tu peux changer la vie de quelqu'un sans le savoir.
Mais c'est ça. Moi c'est pour ça que je kiffe être avec des gens, parler avec des gens, rencontrer des gens, discuter avec des gens, même sur Insta avec mes clientes, même de mes clientes, j'apprends de ouf de leur histoire, de leur façon de voir les choses. Je pense que tu peux apprendre de n'importe qui. Moi mes clientes m'inspirent de ouf pour plein de choses, alors que tu sais des fois tu te dis ouais, t'es inspiré que par les gens qui sont au-dessus, et quand tu dis au-dessus c'est genre littéralement financièrement et au niveau du statut, tu vois, alors que finalement bah moi quand je fais des journées en présentiel avec mes clientes, que je discute avec elles et tout, genre je suis grave inspirée. Tu peux être inspirée de tout le monde quoi. D'où l'intérêt de créer du lien et tout.
Justement, tu parlais de statut, j'avais une question que j'arrivais pas à formuler dans ma tête, mais là le fait de parler de statut, forcément on peut vite avoir l'impression que en gagnant beaucoup d'argent, en développant des gros business, en ayant des... on change de statut, en tout cas on rentre dans un jeu de statut. Est-ce que toi, et en même temps moi j'ai l'impression que justement tu joues pas à ce jeu, en fait.
Ouais. Non. Et
est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient?
Mais en fait je pense que moi, alors je suis hyper fière de tout ça et tout, mais mon niveau d'argent financier, etc., il fait pas partie intégrante de ce que je considère comme vraiment important pour définir
la réussite, le
bonheur. Ouais, c'est ça. Moi c'est pour ça que je pense que je rentre pas dans ces jeux-là, et certes encore une fois je suis trop contente et je continuerai à me battre pour aller encore plus loin et tout, mais je vais jamais me considérer comme au-dessus d'une personne qui gagne moins d'argent que moi, ou qui a moins d'abonnés, ou qui est moins avancée que moi. Enfin, pour moi, c'est pas du tout une mesure de valeur de quelqu'un. Pas du tout. Et du coup, je me l'applique pas moi-même, donc je me prends pas pour quelqu'un de... je me prends pas pour je sais pas qui, genre je suis une meuf normale et tout. Et vraiment, je m'identifie pas du tout comme quelqu'un d'extraordinaire, ou pas du tout. De la même manière que je vais pas juger quelqu'un d'autre parce que il a moins d'argent que moi ou quoi. Enfin, c'est vraiment des... Enfin, moi, j'ai des valeurs qui sont vraiment à des années-lumière de ça, dans ce que je considère comme important, tu vois. Genre, je vais être beaucoup plus sensible à est-ce que quelqu'un est loyal, est-ce que quelqu'un est ambitieux, est-ce que quelqu'un, je sais pas, est déterminé. Il y a plein de valeurs qui sont importantes pour moi chez quelqu'un que j'estime, que je trouve valorisante. Mais l'argent que quelqu'un gagne et la notoriété que quelqu'un a, c'est pas un truc qui me fait définir une personne, quoi. Ouais. Et je me définis pas comme ça non plus.
Ni supérieur ni inférieur aux
non,
gens.
Non, c'est
quoi.
Ça.
Tu te sens.
Ouais.
Ouais, on est tous
c'est
les
ça.
Mêmes, quoi.
Mais ouais de ouf. Sûr. De ouf. Et du coup, naturellement, je rentre pas dans ce truc de. Enfin, genre, je sais que j'ai absolument pas la grosse tête. Genre, enfin, c'est vraiment factuellement, je sais que j'ai pas la grosse tête, tu vois.
Parce que tu vois, je trouve que le marketing et tout ce qui est business coaching, tout ça, en fait, c'est en train d'évoluer un petit peu vers justement ce que tu dis. C'est-à-dire, les gens, ils ont pas trop envie que ça soit descendant.
Ouais,
dans le sens, je t'explique ce que c'est que faire du business. Ou je t'explique ce que c'est que, voilà, regarde-moi comme je suis exceptionnel. Et le côté descendant est complètement déséquilibré, le rapport de force, qui en fait, avant, fonctionnait bien. Il y a une dizaine d'années, tu vois, c'était ça. C'était le ton. Donc t'avais des gourous, on appelait des gourous du marketing, ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus trop ça, qui marche entre guillemets ou qui plaît. Et toi justement, t'as l'impression que ça va évoluer dans quel sens?
Ah, dans ce sens-là. Je pense que personne n'a envie de se sentir inférieur à quelqu'un parce qu'il fait moins d'argent ou parce qu'il est moins avancé ou quoi. Et de la même manière que moi, je serais pas à l'aise avec une personne qui me fait me sentir inférieure, qui lui se sent supérieur par ses résultats, par sa notoriété, et qui du coup me prend un peu, enfin c'est un truc que je déteste, les gens qui par exemple gagnent plus d'argent que moi, j'en ai rencontré, tu vois, à force des entrepreneurs qui sont avancés et tout, et qui me prennent un peu pour leur petite, voilà, qui ont en mode j'ai tout compris à la vie t'inquiète pas, je vais t'élever, je vais t'aider et tout. J'ai trop du mal avec ça. Et j'ai pas du tout envie d'imposer ça à qui que ce soit dans ma communauté. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui, enfin, en fait, je pense que c'est naturel. T'as pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui te fait te sentir inférieur à lui, tu vois. Enfin, moi, c'est un truc qui me paraît naturel. Ouais. J'ai pas envie de me sentir inférieur à quelqu'un. J'ai pas envie de me sentir supérieur à quelqu'un. Et c'est pas du tout la manière dont j'ai envie de transmettre les choses, quoi. Et je pense qu'on évolue plus vers ça. Je pense que les gourous, les gens qui sont vraiment en mode, genre, moi, j'ai tout compris. Tu t'as rien compris et je vais te montrer comment on fait, t'inquiète. Je pense que ça a de moins en moins d'influence, de moins en moins de poids et tout le monde s'en rend compte.
C'est l'auteur Pierre Lemaitre. Ouais. Je sais pas si tu vois. Pierre Lemaitre, c'est un auteur de romans, tu vois.
Okay.
Genre Au revoir là-haut, par exemple, c'est Pierre Lemaitre.
Ouais. Ouais.
Et en fait, lui, dans une interview, il disait que quand il écrivait, quand il développait les personnalités de ses héros, on va dire, de l'histoire, il y a deux moyens de le développer. Soit par admiration, soit par familiarité. Donc soit tu crées un super-héros. Non, j'aimerais tellement être comme ça.
Ouais.
Genre Thomas Shelby des Peaky Blinders, tu vois. Tu te dis, il a un sang-froid incroyable. Tout le monde aimerait avoir ce sang-froid, ce côté froid, etc. Mais c'est un super-héros.
Ouais,
je ne suis pas comme ça, mais j'aimerais être, machin, dans l'idéal. Ou soit par familiarité, c'est-à-dire, en fait, je m'identifie à cette personne. Et ça pourrait être moi. C'est peut-être moi qui vis ce moment. Tu t'imagines à la place de la personne. Et il y a ces deux façons admiration, familiarité. Et moi, j'ai l'impression que dans ce qui est en train de se passer, et toi, on va dire ta stratégie, quasiment inconsciente d'ailleurs, mais ta stratégie, c'est d'avoir vraiment ce côté, je suis comme toi.
Ouais, c'est ça.
En fait.
C'est ça. Mais je sais pas, après, si ça a marché pendant 10 ans, peut-être que ça fonctionne aussi, mais moi, le côté de, t'as un écart énorme entre qui je suis et la personne que j'admire, bah, du coup, ça, en fait, je pense que ça crée ce truc de, je pourrais jamais être comme elle, donc, genre, peu importe ce que je fasse, j'aurai jamais ça. Et le fait de casser ça et de montrer que justement, c'est monsieur et madame tout le monde qui peuvent le faire, entre guillemets, bah, c'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus envie de se mettre en mouvement. Enfin, en tout cas, moi, ça, je le ressens comme ça, quoi.
Ouais.
Je pense qu'on va vers ça.
Ouais, je pense aussi.
C'est cool.
Plus d'humanité, on va dire.
Ouais, c'est ça. Et moins d'ego aussi, genre moins de, moi je suis, enfin, encore une fois, moi je suis au-dessus et j'ai tout compris et je suis exceptionnel et essaye juste d'être comme moi. Enfin, tu sais, je sais pas, j'aime pas, je suis pas trop fan, en vrai, de ce genre de com.
Les gens vont pas trop au-delà de la première couche de communication, parce que quand effectivement on regarde tes posts LinkedIn,
ah mais oui,
tu parles beaucoup d'argent,
ah mais les gens me détestent sur LinkedIn,
les gens vrillent totalement parce qu'ils se disent, mais pour qui elle se prend?
Mais oui,
mais en fait quand on va un petit peu plus loin, quand on rentre dans ton univers, c'est ça qui est un peu très intéressant, c'est que quand on rentre dans ton univers, on comprend que effectivement, bah, parfois tu vas avoir des accroches un peu putaclic, ce genre
bien
de choses là, parce que
ça
attire l'attention, ça marche, mais la réalité derrière, c'est que T'as tes valeurs, t'es ultra transparente sur tes points faibles, etc. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu dans la société du premier degré. Ouais. C'est-à-dire que les gens ne creusent pas. Ouais, TikTok, par exemple, c'est parfait pour ça. Les gens voient une vidéo sur TikTok, tu lis les commentaires, déjà 80% d'insultes,
oui.
et tu vois, et tu te dis, mais les gens ne vont pas au-delà. Ils réfléchissent pas tellement. Et c'est ça qui est un peu compliqué,
oui.
je trouve.
Oui. Mais même des fois, les gens ne, enfin, moi, par exemple, sur LinkedIn, des gens, littéralement, ne lisent pas le post qu'ils critiquent, ouais. tu vois. Ils sont en mode, j'ai dit un truc dans ma phrase d'accroche, genre, 100 000 € ou un truc comme ça. J'ai dit un truc qui leur a fait tilt. Ils ne lisent même pas mon post pour dire des trucs, tu vois. Et genre, je te dis, quand tu vas, t'as même pas ce truc d'aller juste lire le truc. Des fois, ils disent des trucs, vraiment, je les dis dans mon post. Ouais. Genre, je sais pas, je vais dire, exemple, l'argent, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Par exemple, le mec va me dire, toi, tu penses qu'à l'argent, machin, des trucs, mais lunaires. Genre, juste lis le post avant de dire, enfin bref. Ça, c'est un truc de ouf. Sur LinkedIn, c'est que ça. Mais tu vois, d'un autre côté, ces gens-là, ils m'apportent full visibilité. Et après, les meufs qui rentrent, ou même les mecs, hein, j'ai plein de mecs sur LinkedIn qui kiffent et tout, et qui rentrent un peu dans le truc, qui lisent ce que je fais, qui vont sur Insta et tout, bah après, finalement, ils se rendent compte que c'est pas parce que t'as mis une accroche que ça définit qui tu es. Et si je mettais des accroches moins putaclic, ça marcherait moins, quoi.
C'est ça. Ça, je pense qu'il y a un avant, un après. Moi, j'ai vraiment eu une sorte de switch, de changement énorme qui s'est passé quand je me suis dit, c'est pas parce que l'accroche est putaclic.
Ouais.
Que forcément le contenu est de mauvaise qualité. Par exemple, je suivais un gars qui s'appelle Greg Lagrange, qui est un copywriter. Et lui, mais genre, tu lis ses mails, c'est ultra putaclic, c'est de la psychologie, genre vraiment pushy, c'est du marketing répulsif. Genre, si t'es pas content, passe ton chemin, tu vois, ce genre de truc-là. Et je disais ça, je me disais, mais c'est qui ce mec, quoi? Et en fait, tu comprends que il est très, très fort en psychologie humaine, en réalité. Et que oui, c'est putaclic, mais en fait, ça attire ton attention. Donc, je pense qu'il y a il y a un truc, moi, qui s'est passé à un moment où je me suis dit, il faut aller au-delà de la première couche de marketing. C'est pas très grave que ce soit putaclic. Et le changement, il s'est opéré quand je suis allé sur TikTok et quand j'ai commencé à regarder ce qui se passait. TikTok, c'est que ça. C'est-à-dire que c'est 3 secondes.
Mais oui.
3 secondes. Donc, forcément, les gens balancent des dingueries complètement folles pendant 3 secondes. Et ensuite, derrière, tu peux avoir quelque chose d'intéressant. Et quand tu regardes sur 15 posts de la même personne, tu peux te dire, oui, en fait, sur 15 TikTok, il y a quand même des choses intéressantes. Bah, tu comprends la subtilité. Mais au début, tu te dis, mais cette accroche, elle est complètement putaclic, en fait.
Mais carrément. C'est difficile de faire du putaclic. Moi aussi, au début, je me disais, vas-y, je peux pas mettre ça en objet de mon mail, c'est too much. Ouais. Elles vont se sentir attaquées, ou alors elles vont se sentir comme. Et en fait, les personnes que j'ai envie de toucher, elles vont au-delà de ce que je mets comme titre, tu vois. Et les autres, ben, ça les fait parler et du coup, ça m'apporte de la visibilité, donc bon.
En fait, c'est ça. C'est, mine de rien, on est un peu dans la guerre de l'attention.
Bah, mais de ouf.
Ça peut être un peu malheureux quelquefois parce que il y a du gros putaclic très hardcore.
Oui.
Mais en même temps, bon, il faut capter l'attention.
Mais c'est ça. Donc, de ouf. Et puis je pense que des fois, t'as des réalités que, enfin, c'est pas forcément, ça te fait pas plaisir, mais il faut que tu t'y adaptes. Là, pour le coup, factuellement, l'attention des gens, elle est ultra difficile à aller chercher. Ouais. Donc même si t'aimerais bien ne pas avoir à te forcer à faire du putaclic pour leur retenir leur attention, si tu le fais pas, les gens te calculent pas. Donc ouais, t'es obligé de t'adapter à comment ça fonctionne. Du coup, bah moi, je me suis obligé à faire du putaclic. Mais genre, je fais mon titre putaclic et après, j'explique mon raisonnement ensuite, quoi.
Tu vois, par exemple, sur ce podcast, je t'ai pas dit présente-toi.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand t'écoutes un podcast et que t'entends présente-toi, tu sais que t'as 5 minutes où la personne va se présenter. Probablement que tu connais l'invité.
Ouais, carrément. T'as pas envie.
Alors, hop, je fais une petite intro de 2 minutes
secondes,
et bam, on part directement sur la première question. Et je pense que respecter le temps d'attention des gens, c'est une compétence qu'il faut maîtriser.
Mais c'est ça. Mais en fait, il y a plein de gens qui disent, et moi je me rends compte sur LinkedIn, genre, je sais pas, 80% de ce qui fait que mon post va être lu ou pas, c'est l'accroche. Enfin, c'est dans tout, en fait, vraiment, soit ta phrase d'accroche, soit ta première seconde de ton TikTok, de ton Reel, de ton podcast, peu importe, c'est ça qui va définir si la personne, elle regarde ton contenu ou pas. Et du coup, c'est hyper important de le travailler. Et je pense que tu dois, enfin, moi, sur LinkedIn, par exemple, je passe limite plus de temps à réfléchir à ma première phrase que à écrire le contenu ensuite, quoi.
Ouais.
Parce que je sais que c'est ça qui fait tout.
La guerre de l'attention, quoi.
Mais vraiment, vraiment. Ouais. Mais bon, faut jouer avec ce qui se passe. Enfin, en fait, tu peux pas te dire, ah bah non, moi, je refuse que ça se passe comme ça. Bah, en fait,
moi, longtemps, j'ai fait ça.
Ouais, mais je
dois t'avouer que longtemps, je me suis dit,
ah
non, je peux pas.
Mais
je comprends. Et il y a beaucoup de gens qui, dès que je commence à mettre des trucs un peu trop putaclic ou quoi, me disent, mais attends, mais c'est quoi ton truc? Mais en fait,
t'as pas le choix.
Non, pas vraiment.
C'est ça. Et ça fait chier, mais il y a des trucs comme ça, c'est pas forcément d'accord avec tes valeurs, mais c'est juste comme ça. Donc en fait, tu t'adaptes ou personne te voit, personne t'écoute, tu vois. C'est... Et le but, enfin moi, je préfère me dire, bon, je fais un peu de putaclic, ça, je suis pas hyper fan, je suis pas hyper, enfin maintenant c'est devenu un jeu, mais au début, j'étais pas à l'aise non plus, tu vois. Ouais. Et mais je préfère me dire, bah je fais des trucs putaclic, mais au moins les gens lisent ce que je fais et du coup mon impact il est là et mon business il marche, etc. Plutôt que de me dire, bah je veux pas être putaclic pour pas blesser ou froisser ma communauté. Mais du coup, bah après, elle passe son tour et enfin, elle tombe sur un contenu plus putaclic sur lequel elle reste, quoi.
C'était Grant Cardone, tu sais, qui disait ça. Il disait, moi, mon seul ennemi, c'est l'anonymat.
Ouais.
Et je trouvais ça assez intéressant c'est parce que au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, le seul ennemi, l'anonymat, je comprenais pas. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que on est dans un monde où il y a tellement de bruit que tu passes inaperçu. 99% des gens passent inaperçu. Comment faire pour que les gens se disent, je connais? Voilà, cette personne est top of mind pour moi quand je pense à business en ligne pour les femmes, business, coach business, machin, je pense à Margot, quand je pense à... Et tu vois, je pense que c'est ça, c'est que il faut se dire, ok, comment je peux faire pour exister déjà?
C'est ça.
Ça, c'est... Ça peut... Mais on peut le déplorer, tu vois, on peut le déplorer, on peut se dire c'est dommage et tout, c'est... Mais il y a tellement de bruit.
Mais oui,
tellement
mais c'est
bruit.
Ça, on peut rien faire. Il y a des choses comme ça, tu peux rien faire. Genre c'est comme ça, tu pourras rien y changer. Soit tu t'adaptes, soit tu te fais bouffer quoi. Et moi, enfin il est hors de question que je passe inaperçu. Genre si je dois faire du putaclic, être des fois un peu clivante ou quoi, ou faire des choses où je passe 100% à l'aise, bon bah je le fais. Bon après c'est tant que ça rempiète pas sur mes valeurs, je vais pas mentir, je vais pas blesser des gens, mais tu vois, si je dois titiller des gens, si je dois un peu y aller un peu fort dans
parler d'argent contenu,
ouais c'est ça, ouais. Mais ça rend malade les gens sur LinkedIn, ça rend fou.
Et du coup hop, ton post il est visible. Et tu vois, c'est après quand tu es MrBeast par exemple, tu peux te permettre de plus être... Enfin,
bah oui, lui, mais il est full putaclic.
Il est à fond, mais par exemple, quand tu achètes pas un TikTok sur MrBeast, le fait que ça soit MrBeast, déjà, ça attire l'attention.
Bien sûr.
Donc je pense qu'à un certain niveau,
voilà,
tu peux, à mon avis, avoir un côté un peu... voilà, ton visage est suffisamment connu pour que tu puisses te permettre de descendre un peu. Mais bon, il faut faire son trou, quoi.
C'est ça.
J'ai une dernière question pour toi. Si tu... en fait, j'ai deux questions.
Dis-moi.
Voilà. On a le temps, deux questions, tranquille. Alors, première question que j'ai empruntée à Tim Ferriss, que j'adore, qui dit, en gros, si tu avais une énorme affiche 4x3, tu vois, que tu pouvais mettre et qui était vue par 1 million de personnes, et que tu pouvais écrire le message que tu voulais sur cette affiche, qui était vue vraiment par beaucoup de gens, qu'est-ce que tu aurais envie d'écrire sur cette grande affiche, ce grand billboard? Nous, on n'a pas trop de billboard.
Ouais, non, c'est pas trop chez nous.
Disons une affiche de métro 4x3.
Oui, voilà. Franchement, c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais je dirais genre tout est possible. C'est vraiment, moi, c'est la phrase qui m'a le plus drivé. C'est bateau, hein. Mais en vrai, si tu l'intègres vraiment en mode comme un mantra et tout, que c'est vraiment un truc auquel tu crois fort, 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 t'as plus trop de limites, tu vois. Ouais. Moi, je pense que tout est possible, que moi, je peux tout accomplir, que je peux avoir les objectifs que j'ai envie de, enfin, que je peux atteindre les objectifs que je veux. Il y a très peu de limites dans la manière dont j'envisage mes accomplissements futurs et tout. Et du coup, parce que je me suis intégré cette phrase-là très rapidement, quoi. Et pour moi, c'est la phrase qui a changé le plus ma vie et qui peut avoir le plus d'impact sur les gens, quoi.
Parfois, c'est comme on disait, hein, c'est les phrases les plus
simples.
Mais
souvent, c'est ça, en vrai.
Tout est possible. En fait, elle est puissante.
Bah, c'est ça. Parce que vraiment, ça induit que t'as aucune limite, que t'as pas de barrière, que tout ce que tu veux, tu peux le réaliser, qu'il y a rien qui peut te freiner, que qui que tu sois, peu importe d'où tu viens, tu peux y arriver. Et en fait, ça, je trouve, ça en dit long, malgré que la phrase soit bateau, quoi.
Ouais. Tout est possible.
Ouais, ce serait ma phrase.
Trop bien. Et dernière petite question, imaginons que tu croises, moi, j'adore celle-là parce que, imaginons que tu croises Margot, mais à 18 ans.
Ouais.
Voilà. Tu la croises pendant 5 minutes et tu peux lui parler.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Bah, alors franchement, j'aurais envie de lui dire que sa vie va être à des années-lumière de ce qu'elle s'imaginait. Tu vois, moi, à 18 ans, j'étais pas la plus bien dans sa tête, dans sa vie et tout. J'étais, très stressée, très angoissée, très mal même dans ma, enfin physiquement, j'étais pas au top. Bref, j'ai des fréquentations un peu de merde, des histoires de merde. C'était pas la folie. Et je m'imaginais absolument pas avoir une vie qui soit ouf, tu vois. Et du coup, bah, franchement, je lui dirais que, enfin, faut que absolument qu'elle continue à se donner et que vraiment elle est à des années-lumière de ce qu'elle est capable de faire et de ce qu'elle va faire de sa vie. Et franchement, franchement, ouais, limite, ça lui aurait fait du bien de me rencontrer quelques années, parce que vraiment, enfin, je m'en serais pas douté, quoi. Du coup, ouais, je lui dirais de continuer de suivre sa vie et de se dire que, bah, voilà, la mauvaise période, elle durera pas très longtemps et qu'il y a du mieux qui l'attend, quoi. Voilà.
Parfait. On va finir là-dessus. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver vraiment le point d'entrée le plus facile? Instagram, Margot Cunego.
Ouais. Margot-Cunego.coaching, il me semble.
Ok. Ouais. Instagram, bon.
Ouais.
On tape Margot
oui,
avec
voilà.
un O.
Voilà. Normalement,
on te trouve,
ça va.
Normalement.
Oui. Voilà. Donc, Margot. Tout se passe sur